19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM, une nouvelle émission de Time Foot en ce vendredi 25 juin 2021. Et oui, début de week-end, donc durant ces deux heures, le standard est ouvert, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, et toute l'équipe est avec vous en composant le 01 53 48 3000. Au menu de cette émission, Time Foot, Benzema, l'homme fort et attendu de cette équipe de France, un invité exceptionnel avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM, Juneside. Et oui, un privilège de l'avoir avec nous sur les ondes de Beurre FM. La fameuse liste des JO, et oui, les JO de Tokyo de 2020 qui vient de tomber aussi, entre autres Gignac et Thauvin sont parmi les joueurs sélectionnés. Ce sera donc lundi, mais ce soir on doit en parler. Et oui, il faut la Suisse qui rencontre les Bleus de Didier Deschamps ainsi que toutes les dernières infos de la planète Sport & Co. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner sur ce plateau, on aura Marion, notre consultante. Comment ça va, Marion?
Ça va très bien, bonsoir à tous. Ravi d'être là avec vous.
Ah ben nous aussi, le coach Tollé nous accompagne. Comment ça va?
Bonsoir tout le monde, ça va, impeccable.
Oui, Claude, bien. Tranquillement. Bien,
toujours.
On va bien parler là de l'équipe de France ce soir, c'est promis.
On est bien.
Oui, on est très très bien. Vivien nous a rejoint aussi. Comment ça va, Vivien?
Ça va super et toi, Bilal?
Ça va très très bien, Vivien, parce que j'aperçois Mourad et Louis-Marie, voilà. Comment écoute, allez-vous, messieurs?
Je sais pas qui commencer, donc oui, bah écoute, moi ça va très très bien. Je suis vraiment content d'être là pour cette émission en direct, pas au téléphone cette fois-ci. Donc ouais, ça fait très très plaisir, une super équipe ce soir.
Il est juste là. Mourad, comment ça va?
Salut Bilal. Ça va très bien et toi? Bah écoute, j'ai pris un peu l'eau, comme à Wembley. Mais à part ça, tout va bien.
Dans la capitale française. Exactement. Mais bon, on va essayer de donner aussi du sourire à toutes les auditrices, les auditeurs de Beurre FM. On le rappelle, 19h, 21h. Juneside est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission spéciale Euro 2020. Un petit clin d'œil à Emma, sans oublier notre réalisateur Yanis et la jeune réalisatrice Salomé, à qui nous souhaitons un joyeux et bel anniversaire.
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire
Salomé.
Joyeux anniversaire Salomé. Joyeux anniversaire.
Allez, on part avec le premier sujet de cette émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
On l'a pas entendu. Allez, bonsoir Juneside, comment ça va?
Bonsoir à vous, ça va très bien.
Ça va bien?
Ouais, nickel. Ouais. Pris l'eau un peu, mais ça va.
Ouais, mais ben, on va essayer d'oublier cette forte pluie qui vient de s'abattre dans les rues de Paris. Oui, le coach Tollé.
Ça stoppe mon bronzage, moi. Vraiment, tu t'en rigoles, mais c'est vrai.
Il nous vient tout droit de de Göteborg à chaque fois.
Ouais,
je sais
Göteborg,
pas.
Göteborg, Sarajevo.
Ouais.
Enfin, ouais. Fais pas le malin, j'ai laissé le vasistas de mon appart ouvert. Donc là, ça va être le drame à la maison, c'est la piscine.
Juneside, justement, un petit mot.
On a perdu Vivien là sur ce mot-là. Je sentis un moment d'absence.
Et une grosse équipe ce soir qui m'accompagne sur l'antenne de Beurre FM. On va s'attarder, c'est vrai, sur cette équipe de France.
On a grandi dans les grands ensembles. Hein.
De Benzema. Eh oui, Karim Benzema, l'homme fort, l'homme, on va dire, le prodige de cette. De cette équipe de France,
plutôt
cette. Oui, cette star.
On se détend.
J'essaye, on se détend.
C'est vrai, prodige, c'est un peu poussé.
Ouais, un prodige, ça va.
Ah, ça va. Mais
un prodige,
ça va.
4 ans.
Mais une légende du football français, Marion.
Ah, oui, une légende du football français, mais enfin,
bon, c'est prodigieux.
Marion,
à ses débuts avec Lyon, quand même, Marion. Ouais.
Oui, mais pour moi, ça reste un joueur plus. Alors, je commence, voilà, ça reste pour moi un joueur bien meilleur en club qu'en équipe nationale. Et je me tais.
Ouais. Juneside, justement. Non,
mais là, ça a été le meilleur en équipe nationale, justement.
Alors, on va essayer d'abord Juneside.
Je peux pas me permettre de ne pas rebondir là-dessus.
On va rebondir avec l'invité.
Bien sûr.
L'invité.
L'invité est roi. L'invité est roi.
Ben, moi, c'est simple. On est. Il a fait deux très bons matchs amicaux. Le deuxième, il est sorti sur blessure. Mais il a montré des choses très intéressantes. Après, dans la compète, le premier match, il a un but refusé, mais il fait un match quand même très très cohérent. Le second, le deuxième, on le voit moins. Et sur le troisième, même si on l'a peut-être un petit peu moins vu, on lui a demandé d'être efficace. Il a été efficace. Et aujourd'hui, s'il marque pas, c'est pas pareil. On n'a pas le même tirage après. Donc, même si dans le jeu, il est peut-être moins bien ou quoi, aujourd'hui, ben, c'est lui qui là pour l'instant c'est lui qui a porté l'équipe de France.
En tout cas il a porté surtout
il
a porté son courage parce que quand je l'ai vu prendre le ballon pour le penalty, je me suis dit oulala, ça c'est quand même un risque énorme qu'il prend, parce que s'il le loupe c'est la fin de son euro pour lui à mon avis. On n'avait plus qu'à l'enterrer parce que mentalement on l'aurait
c'était une roulette russe, on est d'accord,
c'était roulette russe. Moi j'ai trouvé ça
donc,
très dangereux.
Une fois, grosse preuve de résilience de la part de Karim Benzema.
En tout cas c'est passé,
il l'a mis au bout et on le voit sur son visage.
Ah, il est soulagé.
Il est déterminé.
Et je pense qu'il met jamais.
Avant le penalty. Avant,
je pense qu'il
l'avait
jamais.
C'était comme s'il l'avait mis au fond.
Après, je pense
c'était
que inconcevable qu'il met jamais le deuxième s'il rate le penalty. Ça, c'est sûr. Ouais. On le revoit plus. Alors après, Karim Benzema, bien sûr, il est bon. Enfin, parce que je suis désolé. Alors, je vais être un petit peu plus dur que notre invité, parce que dans le deuxième match, je l'ai trouvé invisible. Mais bon, en tout cas, là, il a été meilleur. Moi, mon problème avec Karim Benzema, c'est pas vis-à-vis de lui. Il est excellent. Il est enfin dans le jeu de cette équipe. Le problème, c'est ce que je disais il y a quelques mois, c'est que Karim Benzema et Antoine Griezmann sont difficilement compatibles. Ils se marchent sur les plates-bandes l'un et l'autre. Alors, il y a un moment donné, on voit bien que quand Karim Benzema est bon, Griezmann ne l'est pas, et vice-versa. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas ensemble. Il va falloir que ça fonctionne ensemble, et très très vite.
Tout est une
ça,
question.
C'est sûr.
Ouais. Alors, selon moi, tout est une question d'animation collective.
Ouais.
Oui, Bilal, tout est une question d'animation collective. Concernant Karim Benzema, moi, je n'ai pas attendu son doublé pour le plébisciter. Cite-moi un joueur aujourd'hui qui est capable. Moi, pour moi, le retour de Karim Benzema, c'est un succès depuis son retour en match amical face à la Bulgarie. Cite-moi aujourd'hui un avant-centre dans cette compétition qui est capable de participer au jeu, aux animations offensives, de redescendre, de prendre la profondeur, de marquer éventuellement prendre la profondeur et d'aller dans le dos de Ruben Dias. Ruben Dias qui est pas n'importe qui, c'est le meilleur joueur de Première Ligue cette saison. En face de lui, il a des meilleurs défenseurs du monde. Et en face de lui, il avait Pépé aussi, qui le connaît par cœur, qui est aussi un grand défenseur, qui savait même où est-ce qu'il allait tirer
pour son penalty. Mais Mourad, on est d'accord. Je peux pas t'en
citer. Cite-moi un joueur aujourd'hui qui a une palette aussi complète que Karim Benzema.
On a besoin, en équipe de France, mais moi j'ai pas de problème avec le joueur. Moi, c'est ce que je te dis, je l'ai toujours adoré.
J'ai pas dit que t'avais un problème personnel avec le joueur.
Non. Moi, ce que je dis juste,
je veux juste qu'on arrête de nous mettre dans des cases lorsqu'on plébiscite Karim Benzema ou lorsqu'on finit avec le procès Karim Benzema, parce qu'aujourd'hui le procès Benzema,
il est terminé,
il a marqué un doublé, on passe à autre chose. Pourquoi passer, mettre dans une case en essayant de trouver un antagonisme à Karim Benzema, en refaisant sortir le cas Griezmann, ou en faisant ressortir le cas Olivier Giroud?
Il y a pas d'antagonisme,
collective.
Et là on est d'accord.
Mais pourquoi tu parles alors justement?
Non mais moi ce que je veux dire,
laisse-moi finir ma phrase. Pourquoi lorsqu'on a un problème avec Karim Benzema, c'est un problème personnel? Pourquoi lorsque le problème est collectif, on revient sur Karim Benzema? C'est
ça qui
me dérange.
Moi, je te parle.
Je vais m'arrêter là.
Moi, je réponds juste.
Ce qui me dérange. Et là, on va parler quand même.
Bien sûr.
Je vais juste répondre sur ce
point.
C'est pas une attaque envers Karim Benzema, pas du tout. Le seul point que je me demande, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est l'attaquant le plus complet de l'Euro. Aucun problème. La question, c'est est-ce que c'est l'avant-centre? L'avant-centre. En tout cas, pour moi, c'est sans doute l'avant-centre, peut-être le plus complet. Mais est-ce que c'est celui qui correspond le mieux aux besoins que l'on a et qui est le plus complémentaire des autres attaquants que nous avons?
Moi, c'est le seul point. Est-ce qu'un jour, on pourra quand même dire simplement, faire 2-3 réserves sur Karim Benzema sans être total fan ou au contraire être anti-Benzema? Moi,
je compte cet enfermement dans cette case, justement.
Je termine ma phrase.
Vas-y, Marion.
On a bien vu en équipe de France, et c'est pas que le cas de Karim Benzema, c'est que tous les joueurs ont été assez irréguliers. Ça, c'est une évidence.
Ouais.
C'est-à-dire, quand on voit la première mi-temps de Paul Pogba contre le Portugal et quand on voit la deuxième, c'est pas le même Paul Pogba. On nous avait promis un Kanté exceptionnel. Le pauvre, il est fatigué, il est cramé. Kylian Mbappé est fantomatique. Je veux dire, on voit bien que c'est irrégulier. Alors, évidemment, ça colle parce qu'il y a Didier Deschamps.
Ouais.
Parce qu'il est capable toujours de s'adapter. Alors, c'est vrai que son schéma de jeu, j'ai pas tout compris. Je dis à vérifier.
Enfin, le côté droit, je suis pas convaincu.
Oui,
le côté droit, Tolisso Koundé.
Mais en attendant, l'équipe termine première du groupe. C'était le groupe de la mort. C'était de loin le plus difficile. Et ça le fait. Donc, c'est pas Karim Benzema. C'est que les joueurs ont été très irréguliers, tous autant.
C'est vrai. Le coach Tolé, Vivien, avant de revenir à Jensen, personnel invité, je le rappelle.
Il y a un problème pour moi au milieu du terrain. Moi, quand tu parles de Kanté, c'est vrai que pour moi, on a le sentiment qu'il n'a pas totalement récupéré de ces dernières semaines de très très haut niveau avec Chelsea. Mais surtout, attention, il joue pas. Deschamps ne le fait pas jouer dans la meilleure animation possible. Lorsqu'il est à Chelsea, il est milieu relayeur, donc il se projette.
Il a quelqu'un derrière lui.
Et puis, il a vraiment cette capacité, ce volume de jeu. Là, en fin de compte, il est cantonné à jouer 6. Ok, très bien, il a cette capacité de récupérer le ballon, mais on a le sentiment que Deschamps l'utilise un petit peu comme un Claude Makélélé qui avait une capacité hors norme de récupérer le ballon, alors que Kanté, c'est bien plus que cela. C'est un vrai milieu relayeur. Et en fait, Bah, c'est logique qu'on ne voit pas le Kanté.
Bah, le problème, c'est qu'on peut pas, on peut pas avoir tout le monde.
C'est une question d'animation. Ouais,
mais à un moment, pourquoi, par exemple, lors du match amical, il te met Tolisso, tu sais, contre.
Ah, mais ça marche bien, mais le problème, c'est que comment tu animes devant si tu mets ces trois-là?
Le fameux équilibre.
Alors, vas-y, laisse le terminer.
Il te met Tolisso en 6. Il te met Tolisso en 6, donc contre le Pays de Galles. Ouais, Tolisso a fait un très bon match dans la distribution. Là, tu le retrouves quasiment aux avant-postes. Bah, forcément, avec Koundé, là, t'as un axe droit à New Look dans un match aussi important que le Portugal. Forcément, tu
ça peut pas marcher.
Pourquoi tu peux pas mettre Tolisso devant la défense comme il a été plutôt bon lors des deux matchs amicaux et Kanté en milieu relayeur?
Pourquoi je te réponds tout de suite. Je réponds à ta question.
Pourquoi
j'y réponds. Tu poses une question.
On n'a pas besoin de Dumarie là pour répondre à nos questions.
C'est ce que je dis. Mais pourquoi les hommes forts, pourquoi les joueurs qui sont censés amener ta plus-value, on les met pas dans les meilleures dispositions?
C'est pour mettre Griezmann dans les meilleures solutions. En fait, le truc, c'est qu'on peut pas mettre tous les joueurs dans les meilleures dispositions. Enfin, c'est difficile, tout du moins. Parce que Griezmann veut jouer dans l'axe. Oui. Si tu mets Tolisso dans ce milieu à 3, où je trouve ça marche bien, effectivement, avec Kanté qui prend un petit peu le côté droit, Pogba un petit peu le côté gauche, ça veut dire que Griezmann, de fait, se retrouve un petit peu déporté côté droit.
Et pourquoi?
C'est le système qui veut ça, sinon personne n'anime le côté droit.
Mais justement, votre invité, s'il vous plaît.
Il est censé être Axel derrière Mbappé et Benzema.
Monsieur Tolé, très intéressant.
Il reste dans son.
Vraiment. Mais il faut animer les côtés.
Mourad, Louis-Marie,
les
Marion. Vivien, on l'a pas entendu. Et l'invité est dans se battre pour en parler. Mais c'est pas possible.
Au milieu de terrain, par exemple, quand il met Kanté, Rabiot et Pogba, je sais pas si vous avez remarqué. C'est que les trois, en fait, ils tournent à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, Kanté, il est jamais tout le temps en sentinelle. C'est-à-dire souvent, Kanté, quand il va chasser, Pogba, il prend la place. Et Rabiot aussi, il a déjà joué à ce poste-là en club. Donc en fait, les trois, la complémentarité des trois, en fait, c'est que les trois, sur des phases, sur certains temps, ils peuvent se retrouver en sentinelle. Et après, il y a que réellement, comment il s'appelle, Griezmann, sur les matchs amicaux, qui restait réellement en 10. Mais après, maintenant, pendant la compète, il n'a pas fait cette.
Il a fait ses preuves à de nombreux postes, mais pas en 10. Il descend très bien. À la récupération, ça, c'est des courses que j'apprécie.
En 10, c'est pas un 10. Personnellement,
le 4-3-3.
Après,
la complémentarité, elle est mise en
place. La composition qu'il a énumérée, c'est le 4-3-3. On a l'impression que l'équipe de France est assez mal à l'aise avec cette composition-là, alors que c'est la composition naturelle, justement, de Didier Deschamps qui devrait fonctionner. Le 4-2-3-1 a montré qu'il y avait plus de fluidité. Moi, là où on plébiscite Griezmann sur ses retours défensifs, etc., moi, j'aimerais bien que ses courses, il les fasse dans le sens inverse.
Oui, qu'il aille vers l'avant.
C'est-à-dire quand Karim Benzema redescend, parce que je sais plus qui c'est qui disait qu'il marchait dans les plates-bandes, c'est qu'il prenne la profondeur et qu'il ne laisse pas simplement le rôle à Kylian Mbappé d'assurer ce rôle d'attaquant de profondeur. Et ça permet un peu plus de permutation et un peu plus de fluidité dans le jeu.
Vivien, on l'écoute.
C'est ce qui va être intéressant si on se projette maintenant sur le France-Suisse qui arrive lundi, c'est. Comment
on
va jouer? Alors, on sait que je mets de côté le débat d'arrière-gauche avec Noblesse, etc. Mais au niveau de cette animation, milieu offensif, c'est quels ajustements? Alors, c'est là où je me demande vraiment ce que Deschamps va faire. Est-ce qu'il va maintenir à peu près ce même 11? Bien sûr, je mets de côté les arrière-gauche.
Lorsque tu parles des absences des latéraux, tu parles au sens propre ou au sens figuré? Parce qu'ils sont absents au sens propre, c'est-à-dire ils sont blessés, les latéraux gauche. Et au sens figuré aussi, depuis le début de la compétition.
Le problème, c'est qu'à droite, c'est pas des latéraux.
À gauche, déjà, même ils testaient Rabiot de mémoire. Aux derniers entraînements,
Léo Dubois.
Parce qu'il n'y a plus le choix, t'as deux blessés.
Dubois, je sais même pas s'il utilise son pied gauche pour monter dans le bus.
Mais pour revenir sur ce que disait le coach Tolé sur justement cette animation côté droit, pourquoi je disais que Griezmann était obligé de s'y retrouver, c'est que en fait quand tu joues avec un arrière droit qui n'est pas un arrière droit de métier, qui n'est pas un latéral qui prend la profondeur, que ça soit Pavard ou Koundé, ce sont des joueurs plutôt défensifs formés en défenseur central. Donc si tu leur abandonnes le côté droit, ils vont pas le prendre. Donc il faut bien quelqu'un. Il se projette, mais c'est pas naturel. Il centre très peu. Koundé.
Pour ma part, je trouve qu'il se projette plus que Pavard. Hein.
Oui, Jonsai.
Mais c'est peu par rapport à un vrai latéral droit. C'est pas un Cancelo.
Je pense qu'on sous-estime la qualité de centre de Pavard.
La qualité de centre de Pavard est supérieure à celle de Koundé.
Largement.
Koundé va plus se projeter avec la balle.
La réalité, c'est Koundé n'a pas sa place en équipe de France. On le dit pas. Il est beaucoup trop jeune. Il est absolument pas prêt. Il n'est pas prêt pour être en équipe de France. Le problème, c'est qu'il y a des blessés. Et le problème, c'est du coup, Koundé est amené à jouer dans des moments où il y a un peu d'angoisse et qu'il n'a pas encore.
Mais il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place en arrière droit. Mais si, en défenseur central, il n'y a pas de sujet.
Oui, on va revenir à Mourad.
Même si c'est compliqué pour lui, parce que certes, il est très jeune déjà.
Ouais.
on prend qui à sa place déjà. Exactement. Déjà, on prend qui à sa place.
Il y a personne en France.
Après, même si les jeunes, ils sont pas trop mal. Il fait comme une passe D et sur les matchs amicaux, il a pas été.
C'est ce qu'il fait par rapport au fait qu'il ne joue pas à son poste, qu'il n'est pas son centre de poste de formation. Il y a joué un match l'an dernier. C'est, on peut pas lui jeter la pierre.
Moi, je pense que les Espagnols sont preneurs de Koundé en équipe d'Espagne. Ah, si on analyse justement les performances de Koundé sous le prisme franco-français, c'est clair que Koundé, on le connaît pas. Pour nous, il a rien à faire.
Mais il est dans l'équipe de la Liga.
En Liga, c'est un décador. En Liga, ils le prennent tous les jours.
Ouais. Mais en défenseur central,
la Liga, quand même, la Liga n'a plus le niveau d'il y a 4 ou 5 ans. Il faut arrêter avec
ça. Ça change. Mais Marion, alors il y a qui en arrière en France?
On dirait en première ligue. Non, mais je suis d'accord, c'est un vrai problème.
Mais voilà, on met un peu. C'est un pansement. On est en arrière droit à la France.
Il fait partie de l'équipe de la Liga. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose.
Ils ont pris trois des plus grandes compétitions internationales sur ces 20 dernières années. Pour moi, ils sont encore dans le coup. Certes, ils ont, et c'est la fin d'un cycle.
Non, mais ne jouons pas sur les mots. Je dis juste
alors,
que, voilà,
quelque chose d'intéressant sur le débat que l'on a eu.
Une transition dans un cycle.
On va revenir sur le système de jeu mis en place par Didier Deschamps. On avait Abdel, un consultant qui nous disait quand Tolisso joue normalement, il doit être sentinelle et ça permet aussi à N'Golo Kanté de se projeter. Mais non, Didier Deschamps, Marion, a voulu faire une Matuidi 2018 côté droit.
C'est vrai.
Mais personne n'a le talent de Matuidi.
Et puis il n'a pas ces qualités-là.
On va faire une courte pause avant de revenir avec notre invité Junsai. À de suite.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, on est ensemble jusqu'à 21h, c'est promis, avec notre consultante Marion, Mourad, Louis-Marie, Vivien, notre coach Tolé, pour la première fois avec nous, John Side sur l'antenne de Beurre FM. Allez, on va partir avec cette magnifique interview, on l'espère, pour vous, rien que pour vous, chers auditeurs de Beurre FM.
Time Sport, The Special One.
Eh oui, ancien pensionnaire, excusez-moi, du centre de formation du Racing Club de Strasbourg au poste de gardien de but. Junsaïd, eh oui, aujourd'hui, s'est lancé pleinement dans une carrière, dans la musique, hein, chanteur, artiste, je vais dire comme ça. Pourquoi? Ça vous a toujours, ça vous a toujours un peu titillé. Vous avez toujours été baigné dans la musique, d'une certaine manière, pour en arriver là aujourd'hui et tout plaquer.
Tout plaquer, non. Après, le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, mon grand frère, il faisait de la musique déjà. C'est-à-dire que très très jeune, j'ai voulu aller en studio avec lui, etc., etc. Et puis je suis allé au studio, je suis toujours allé en studio en fait. Tout le temps, même quand je suis rentré au centre de formation, j'allais en studio quand je rentrais, etc., etc., etc. Donc j'ai toujours aimé aller en studio, écrire, faire des scènes, des petites scènes, etc. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je m'y suis mis pleinement, réellement, il y a un an en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus de 200 morceaux à mon actif, on va dire.
C'est si frais alors?
Ouais. On va dire, vraiment dedans, ouais. C'est frais, ça fait un an. Ce qui s'est passé, c'est que mes amis, ils ont... Bon, j'ai toujours trouvé que je faisais quand même de la bonne musique. Que c'était potable. Ouais. J'ai jamais fait
ça. C'est toi qui le dis.
Ça, c'est
il est dans le flow.
Je suis très modeste en toute modestie. À chaque fois que j'ai fait écouter mes morceaux, il y a des gens qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, moi, j'ai jamais eu de retour. Ah non, c'est dégueulasse. Non, il faut qu'il arrête, etc. Donc après, moi, mes potes, mes proches, ils m'ont dit, ouais, mais sors les morceaux. On sait pas, en fait. Il y en a qui sortent des morceaux pour rigoler et ça casse tout au final.
C'est vrai.
Donc c'est bien ce que j'ai fait. On a fait un budget entre potes. On a sorti 3000 euros. On a fait 3000 euros entre potes. On a sorti, c'est sorti le premier le 21 mai, Bison, morceau qui s'appelle Bison, qui est sur YouTube. Un mois après, j'ai sorti Rampage, qui est sur YouTube.
Aussi.
Et après, j'ai sorti Dose 1. Et à partir de là, en fait, j'ai senti un petit engouement autour de moi.
Une certaine autorité qui commençait à se mettre en place, quoi.
Et après, les gens me demandaient, ouais, c'est quand le prochain? Toujours localement autour de moi. Je vais pas faire le menteur ici. Et j'ai sorti un EP le 15 décembre 2020.
Ouais.
Donc je l'ai sorti, je me suis dit ouais, ça va être vite fait, je l'ai sorti juste pour le sortir en fait. Mais en fait au final, donc mon grand frère qui me suit et qui s'occupait de ma distribution, je voulais pas les chiffres de stream, etc., etc. Honnêtement, moi je m'attendais à faire quoi, peut-être 100 streams sur tout le projet, vraiment un petit truc. Et il m'envoie un message, il me dit ouais, t'as 200 streams. Déjà je lui dis ouais, pourquoi tu m'as dit, je voulais pas savoir, parce que j'aime pas regarder les chiffres. Et après, au bout, il me dit, oh, t'as 800 streams. Ah, t'as tant de streams. Et en fait, pour moi, c'était énorme. Et après, de là, j'ai eu beaucoup de retours sur l'EP, un 5 titres. J'ai eu beaucoup de bons retours. J'ai eu un morceau phare. Un mois après, je fais un Skyrock. Et puis après.
Ouais, après c'est bon. Et la carrière démarre. Vivien, Mourad, les réactions, peut-être aussi avec Marion et le coach
de Tolède. Justement, en termes d'objectifs, est-ce que toi, tu, par exemple, tu vises par exemple, d'être signé chez un major, par exemple, comme Epic Records avec Pauline Duart, qu'est-ce que tu verrais maintenant? Ce serait quoi l'idéal? Plutôt un major, plutôt cartonnant, indépendant?
Oh, moi, je vais juste péter, mon.
Ouais. Ouais,
mais en fait, après, moi, j'ai. La chance que j'ai, c'est quoi? C'est que, comme je suis très structuré.
Ouais.
Je suis vraiment très structuré. J'ai des mecs qui sont là pour la com.
Ouais.
J'ai des mecs qui sont là pour mes vidéos. Et j'ai mon manager, j'ai ma pro. C'est-à-dire que je suis très carré. Ça veut dire que. On pourra pas me mettre de carottes. Je vais pas voir quelque chose et un gros chèque et je vais pas me dire ah là-bas il y a 200 000 euros et je vais y aller. Non, j'ai tout ce qu'il faut derrière et puis j'ai.
Assez serein, John Sight, c'est ça.
Assez, je suis pas un gamin non plus.
Ouais.
C'est-à-dire que je saurais prendre le recul, voir ce qui me sera bon ou pas en fait.
Et t'as une vision globale, un peu comme un gardien de but. Ouais, tu vois les choses arriver.
Et ça, peut-être Rabah Elan tire profit de cette formation qu'il a eue en tant que gardien de but, Mourad. Ouais.
Non,
et toi qui connais bien en plus le.
Non, moi je voulais faire le parallèle entre sa carrière en tant que gardien de but au Racing Club de Strasbourg et sa carrière de rappeur. Déjà, on connaît pas les raisons justement de ta non-poursuite en qualité de footballeur.
Tu joues encore.
Ah, okay. Ouais. Et du coup, t'évolues à quel niveau?
N3.
En N3, ok, c'est pas mal. Donc, c'est
bien.
Même très bien.
C'est très bien.
J'ai jamais lâché le foot. Jamais.
Toujours là.
Sur le parcours, j'ai signé à Strasbourg, d'abord dans un contrat de non-sollicitation. C'est-à-dire que je restais dans mon club, mais j'appartenais déjà à Strasbourg. Donc mon contrat, il démarre en 2019, saison 2019-2010. Je signe aspirant pro à la fin de la saison 2019-2010. Et à la fin de cette
2019-2020.
Non, 2019-2010.
2009-2010.
Et 2010-2011, je signe mon contrat aspirant pro. Donc ça, c'est mon premier contrat. Et à la fin de cette saison-là, on me propose un contrat stagiaire pro. Ouais. C'est juste avant le contrat
pro. C'est l'étape classique. Hein.
Donc, c'est 2 ans. Et après, les meilleurs, ils signent pro.
Bien sûr.
Ou pas. À cette proposition, en fait, c'est de l'année où le club fait le dépôt de bilan.
Eh oui, malheureusement, elle est.
Okay. Donc, ça traversait de désert où le club valait 1 euro.
En fait, après, j'étais suivi par des clubs, etc. Mais moi, mon profil correspondait à Strasbourg. Ça n'a pas marché autre part.
Ouais.
Après, je suis toujours resté dans le foot. Et puis après, j'étais à Creil, je suis redescendu en DH. Après, j'ai signé à l'entente de Saint-Gratien. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr.
Je les ai éliminés en Coupe de France.
En
2007-2008.
Donc, j'étais là-bas jusque.
Le SSG 95.
Jusqu'au niveau national.
Ouais.
Donc, j'étais dans l'effectif. Après, je suis reparti à Chantilly, donc en N3 à l'époque. Ça s'est mal passé. Saint-Gratien m'a rappelé. Donc, là, j'ai fait 2 saisons à Saint-Gratien. Donc, là, c'était National 2. Et là, je suis reparti à Strasbourg. Et entre-temps, j'ai fait la sélection du Congo de U17 à.
Et ça, faut le rappeler. Eh oui.
Mais Congo. Lequel Congo?
Ah, bah.
Kinshasa.
Brazzaville aussi, je demande.
On a Brazzaville, on a Kid, bien sûr.
Kinshasa.
Ouais, kiff. Non.
Moi, je voulais.
Marie.
Ouais, je voulais te demander. Tu disais que tu étais un garçon structuré, les pieds sur terre. Est-ce que ça ne vient pas aussi, justement, du football où, très jeune, tu es obligé d'avoir une espèce de rigueur, de sérieux? Que n'ont peut-être pas tous les jeunes qui veulent se lancer dans le rap. Est-ce que ça t'a aidé justement d'avoir ce sérieux, cette volonté de faire les choses bien?
Moi, par rapport à la musique, c'est surtout c'est mon frère en fait. Parce que mon grand frère était très à cheval sur les papiers, fais ça, en studio c'est comme si, c'est comme ça, le concert, expression cynique, c'est ça, et c'est pour ça en fait. En tout cas dans la musique, c'est pour ça que je suis très carré. Et après au foot, j'ai toujours été au meilleur niveau régional. Au meilleur niveau national, c'est-à-dire que même quand j'étais en club amateur, donc j'avais ce rythme d'entraînement, etc., qui a toujours été omniprésent. Donc j'ai pas eu le temps
de trop te disperser,
de trop me disperser. À part les petites bêtises à l'école, je traînais pas dehors ou très tard, je faisais pas de bêtises extraordinaires. Quand j'étais réellement dans le foot, quand j'étais à 100% dans le foot, on va dire.
Ouais, Marion, peut-être. Ouais, une réaction.
Si.
Ouais, Marion, vas-y.
Moi, j'écoute toujours avec beaucoup de. Je dirais presque de tendresse les joueurs de foot, parce que je trouve que quel que soit le niveau, quel que soit le. Je trouve qu'il faut une force, une abnégation, un courage que, évidemment, je n'aurais. J'ai une certaine admiration pour ça, pour les gens qui font ce
métier. Ah, t'es sous le charme.
Ouais.
Mais
t'arrives quoi, Vivien, quand même.
Elle a parlé de respect.
Ouais. Non. Vas-y. Oui, Mourad.
Non, mais justement, moi, j'avais pas fini ma question tout à l'heure. Il a répondu sur son parcours. Ce qui est intéressant, c'est que les deux carrières, en fait, on va dire professionnelles qui l'aspirent justement à entreprendre, c'est la carrière en tant que footballeur, la carrière en tant que rappeur. Aujourd'hui, ce sont les deux rêves, on va dire, de la plupart des jeunes.
Memphis Depay, il a fait aussi, par
exactement.
Exemple.
Exactement. Memphis Depay, oui, mais c'est une fois qu'il a percé, qu'il s'est lancé dans le rap.
Ouais, mais
là,
toujours regardé,
si tu avais un choix à faire aujourd'hui entre le rap et le foot, quand tu es à la croisée des chemins, quelle carrière aurais-tu choisi ? Le foot ou le rap ?
Avant, pas maintenant.
À la croisée des chemins, c'est-à-dire
si tu vas réussir
tous les outils foot, pour foot, péter dans le rap foot, ou pour exploser dans le foot,
dans le football.
Foot, parce que comme je vous ai dit, ça fait un an que le rap, je m'y suis mis, enfin pas que je m'y suis mis, enfin si, que je m'y suis mis sérieusement, en espérant, en voulant aller chercher quelque chose. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est comme tout à l'heure, j'étais avec mon manager producteur.
À qui nous passons le bonsoir.
Je lui ai fait écouter un morceau dans la voiture. Je lui ai fait écouter un morceau. J'avais 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, je fais de la musique vraiment. Je suis toujours même à Strasbourg. J'allais au studio à Strasbourg. J'ai fait un morceau qui sera dans mon EP avec H-Kid, qui est signé. Je sais pas si vous connaissez un peu. Je l'ai rencontré. J'étais au centre. On a fait un morceau. J'étais au centre. Donc c'est un truc en fait qui sera toujours là. Si j'avais percé dans le foot, j'aurais continué à faire de la musique. Je ne me serais pas arrêté, en fait.
Il y a aussi justement les décrochages scolaires. En fait, étant donné que le foot et le rap sont des rêves, mais parfois des rêves inatteignables, je pense que certains jeunes, en fait, peuvent abandonner leur parcours scolaire, le décrochage scolaire, certains objectifs professionnels beaucoup plus pragmatiques. Qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes, justement, qui seraient trop dans le rêve du rap et du foot par rapport à leur carrière, on va dire, sociale, de la vie normale de monsieur tout le monde? Je vais pas te demander d'endosser le rôle de Pascal le grand frère, mais non, au moins de dire que si tu rappes ta carrière de foot et de rap, juste,
moi je pars du principe à partir du
c'est l'école de la deuxième chance. Tu vois ce que je veux dire?
À partir du moment où on se donne à fond dans quelque chose, peu importe le domaine, à partir du moment où on va se donner à fond dans quelque chose, ça paiera tôt ou tard. C'est-à-dire que demain, si à l'école t'es nul à l'école, mais tu veux étudier, tu vas te donner les moyens pour étudier, tu vas te donner à fond. Peut-être qu'au collège, moi j'ai plein d'amis, au collège j'étais des peintres, hein, nuls. Ils arrivent au lycée, ils explosent tout, et c'est eux qui font des écoles sud, des études sud. Et comme à l'inverse, plein de gens du collège qui étaient premiers de la classe, on arrive au lycée, ça commence à dégringoler. Et en fait, au final, c'est eux qui sont, entre guillemets, qui font pas les études qu'on leur avait promis.
Et puis quelque part, la formation, les jeux, moi je vois beaucoup en tant que.
Ouais, le mari.
Je suis enseignant dans le supérieur. Et je vois beaucoup, quand je vois des élèves qui viennent justement du sport professionnel, même ils n'ont pas percé dedans, mais qui ont un parcours de sportif de haut niveau, ça les a formés. Ça leur a donné maturité. Conscience, ça leur a donné une maturité. Et du coup, des études qu'ils n'auraient peut-être pas été capables de faire ou qu'on leur donnait peu de chances de faire, ils arrivent à les faire parce qu'ils ont le sérieux, la confiance en eux que leur a apporté le sport. Donc pour moi, que ce soit le sport ou la musique, ce sont des manières de se former, de prendre confiance pour l'avenir et pourquoi pas les études.
Alors le coach Tollet.
Je partage ce que dit Louis. J'ai un élève moi qui était au centre de formation de Guingamp et c'est vrai que il était en Moréa, donc a repassé son bac en candidat libre, jamais évident, et c'est vrai qu'il faisait preuve d'une grande maturité. Après, pour rejoindre ce que disait Mourad, c'est que je pense qu'il y a aussi un travail à faire de la part des écoles, des clubs aussi et des familles. Parents.
Ouais, bien sûr. Il a raison.
Parce que quand tu vois aujourd'hui les parents, malheureusement, pas tous, hein, mais c'est un vrai cancer autour du foot.
Ça ne faut pas que le gamin devienne un produit qu'on veut valoriser, qu'on veut vendre et monnayer.
En fait, là où je voulais en venir,
oui, Mourad.
Ça met des étoiles dans les yeux, mais c'est surtout deux domaines où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc, c'est très dangereux. Voilà, c'était là où je voulais en venir.
Les clubs.
Alors, je ne sais.
Les clubs, ils sont. Moi, pour ma part, j'ai signé. Moi. À l'époque, quand j'ai signé à Strasbourg, on sort de la Coupe nationale des 14 ans. Je ne sais plus s'ils la font encore. Donc c'est où il y avait tous les meilleurs de la génération. Donc moi, je suis de la génération Paul Pogba, Varane, Areola, etc.
Moi aussi, je suis de la génération de Benzema, etc. Mais j'ai jamais joué. Tu es de la même année que
Toulouse. Non, je plaisante. Il y a Toulouse qui me propose un contrat aspirant professionnel, 3 ans directement sur la table. Je fais pas d'essai, je fais rien du tout là-bas. Donc il y a Toulouse qui envoie un contrat à la maison, qui propose un contrat, 3 ans, il sera payé, etc. etc. J'avais 15-16 ans à l'époque, 15 ans. Et il y a Strasbourg qui me suit depuis que je suis en poussin. mais je les ai jamais vus. Ils sont jamais venus, ils sont jamais venus parler.
Mais, tu faisais partie de leur liste de jeunes qui surveillaient, quoi.
Numéro un, c'était lui. Lui, on va le faire signer.
Ouais.
Et du coup, après cette Coupe nationale, donc là, il se manifeste. Voilà, on veut faire signer. Enfin, voilà, on veut Junior. Eux, ce qu'ils font, c'est que d'abord, je vais en test là-bas. Donc, je pars 3 jours.
Deuxième. À Toulouse ?
Non, à Strasbourg.
À Strasbourg.
Mais Toulouse a déjà envoyé un contrat.
D'accord.
Je vais à Strasbourg, je fais 2 jours. Troisième jour, je tombe malade. En plein match. Donc, à la mi-temps, je sors. Et je
t'es tombé malade à la mi-temps ?
Ouais. Je sais pas. Ou je n'étais pas dans le match, c'était une excuse. Et je regarde le coach. Il me dit, ça va ? Et je dis, ah, franchement, vite fait. Et le coach, il me regarde. Il me dit, ah, mais de toute façon, t'es pris, toi.
Ok, donc tu es l'arbitre changement du coup.
Non, en fait, j'étais sur le banc. J'étais sorti, ils avaient mis un joueur au but.
Ouais.
J'étais censé être en essai. Moi, je savais pas qu'en fait, c'était entre guillemets, c'était bouclé, c'était juste pour que je vois. Et il me dit, ouais, en fait, c'est bon. Et après, Strasbourg, ils ont fait venir mes parents. Donc, avion pour mes parents, visiter la ville. En plus, Strasbourg, c'est magnifique.
Ouais.
La petite France, etc., la cathédrale et tout et tout. Et en fait, ce qu'ils m'ont proposé, c'est que Strasbourg, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la première année à Strasbourg, je suis pas payé. C'est-à-dire que je fais une année sous convention et après je signe aspirant. Donc ma première année, ils me payaient mes équipements, les voyages, etc. Mais je n'étais pas payé. Et les parents, donc ils ont montré un cadre. Ils ont dressé un cadre scolaire.
En fait, avec la convention, on met l'accent sur le scolaire.
Surtout de vie, d'éducation à mes parents qui ont plu à mes parents. Et c'est pour ça que je suis arrivé.
Ça prime. Justement, on a parlé de football, aussi un peu de musique. Et bien là, les projets à venir, Junsai. Les tubes, justement, pour sortir.
Ben là, normalement, on doit. Il y a un morceau qui est sorti là, que vous avez passé tout à l'heure, Bouscapé.
Bouscapé.
Il y a un clip qui va arriver qu'on doit tourner, où on va tourner la semaine prochaine, qui devrait arriver très vite après. Et l'EP pour septembre. Faut qu'on bloque la date, mais pour septembre qui est déjà fini, qui est parti au mix. Puis voilà.
Ah bah vous reviendrez. Hein, vous reviendrez et on en reparlera justement de cette EP. Il n'y a pas de problème. En espérant que la France sera sacrée championne d'Europe. Oui, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette heure. Hein, on va faire une courte pause avant de revenir. Oui, tu dis, vas-y. Allez, encore la petite blagounette de Vivien. Vas-y, Vivien.
C'est une question.
Vas-y.
C'est plus, je ne sais, comment est-ce que tu te définirais comme rappeur? Est-ce que tu es plus pour ambiancer? Est-ce que tu es plus dans le rap conscient? Est-ce que limite tu es dans l'afro-trap? Comment est-ce que tu te définirais?
Ça, c'est la question c'est la question que je redoute le plus à chaque fois.
Il est comme Karim Benzema.
En fait, c'est. Je peux être très éclectique, je peux être très ouvert, mais j'aime ce qui est assez sombre en fait.
Okay.
Et c'est pour ça, dans un de mes morceaux de l'EP, je dis chaque morceau vu comme un culte. C'est-à-dire qu'en fait, pour cerner le personnage, c'est que je mets beaucoup d'argot. Ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment m'écouter, vraiment en prendre plein la figure pour vraiment tout comprendre. Mais je peux être ouvert, le morceau qui va sortir, là, c'est un morceau qui est assez pas dansant, mais qui est plus...
Ouais. Mais pourquoi on pourrait pas ambiancer en étant conscient? C'est pas incompatible, ouais, c'est... non
moi, j'ai qu'est-ce qui me passe.
Sans alcool, la fête est plus folle, c'est ça ce que tu voulais dire, justement.
Moi, j'essaie de transmettre, en fait.
On peut le rappeler à certaines familles,
c'est que les gens, en fait, c'est que quand je fais écouter... Là, quand je fais écouter mes morceaux, c'est pas bien. Il y a un morceau que j'ai fait, j'étais pas dans mon état normal, on va dire.
Ouais.
J'étais assez joyeux.
Ça s'appelle coller la petite.
Moi je quitte le plateau.
Vivien, on va couper le micro. Vivien, tu parles plus, Vivien. Mais c'est comme ça que tu accueilles les invités.
Le morceau, c'est un morceau qu'on devait jouer. Il s'appelle Colombe. C'est un morceau très doux. Et je l'ai fait écouter à quelqu'un. Et la personne m'a dit direct, oh, le morceau, franchement, il est super bien. Mais t'étais défoncé ou quoi? C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est que les personnes, ils sentent dans quel état j'étais quand j'ai enregistré le morceau. Et à partir du moment où la personne est capable de dire, ouais, là, t'étais énervé, là, t'étais heureux, là, t'étais triste, là, t'étais dans un état de je ne sais quoi, je pense que mon travail, il a été fait.
On le promet en tout cas. Il est bien, Jean, il est avec nous sur l'antenne de Beurre FM. C'est Junsai pour la première fois dans cette émission qui est Tamfoot. Restez avec nous. On reviendra, c'est promis, avec cette fameuse liste des Jeux Olympiques pour l'équipe de France.
Tamfoot spécial Euro 2021,
revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la première heure. On est ensemble jusqu'à 21h, toujours en compagnie de Marion, de Lumari. Mourad est avec nous, Vivien, sans oublier le coach Tolé, et aussi notre invité Junsai, et oui, qui reste avec nous durant toute cette heure. On va aborder le cas de l'équipe de France avec cette phase finale. Ouais, je vais même pas appeler comme ça cette phase finale. Plutôt c'est pas l'Euro. Il y a trop. Il y a l'Euro.
Les JO.
Eh oui.
L'équipe de France olympique.
Non, mais c'était. En fait, on n'appelle pas une. On appelle plutôt compétition et non pas phase finale. Voilà, ou tournoi encore concernant les Jeux Olympiques de sur la catégorie football, la discipline plutôt. Allez, on y va.
Time Sport. L'actu bleu.
Eh oui, tant de choses à dire, le coach Tolé, hein, parce que l'équipe de France, avec cette liste, elle n'est pas assez officielle, si je peux me permettre. Hein.
Mais justement.
Ouais, eh oui, Marion, alors.
C'est ce qu'il fallait absolument faire pour la
France. Oui.
C'est-à-dire que la FFR a bien vu que Koundé et Mbappé ne pouvaient pas jouer les JO. Il fallait sortir une liste absolument et mettre les clubs devant le fait accompli. Sinon, on n'avance pas. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que l'équipe a dit c'est le grand bloc, c'est pas le grand bloc, c'est mettre les clubs devant le fait accompli.
C'est un bras de fer.
C'est une pression de la FFF.
Ouais.
Et moi, je trouve ça très bien.
Ouais. C'est ça.
Je trouve que les JO, c'est une compétition qui n'est pas effectivement très prise au sérieux dans le football, évidemment, on le sait. Mais rappelez-vous, Marquinhos a gagné les JO avec le Brésil, il était très heureux de l'avoir fait. Moi, je trouve que vraiment, c'est une possibilité pour beaucoup de joueurs, notamment le retour de Gignac, si c'était possible. Pourquoi pas Camavinga, justement, qui est dans cette liste, qui pourrait justement... Voilà, jouer. Moi, je trouve ça très, très positif et je trouve que la FFF, j'aurais fait exactement pareil. Voilà.
Le coach de Tolé.
Alors. C'est vrai que je crois que d'après ce que j'ai entendu, Sylvain Paul a été obligé déjà d'élargir sa liste de noms. Alors, c'est vrai que je peux comprendre les clubs dans la position du club parce que il y a un championnat à jouer, il y a une préparation, etc. Mais en même temps, je rejoins Marion aussi, c'est vrai que c'est pas trop pris au sérieux. Et je trouve ça dommage parce que je pense que pour un sportif de haut niveau, ça reste quand même une expérience extraordinaire de disputer les JO, quoi.
Moi je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, le foot aux JO, non, pas pour les joueurs. Pour moi, c'est que le foot aux JO, c'est une mascarade auquel il faut mettre un terme. Il y a un moment donné.
Ouais, carrément.
Ah non, mais, c'est quoi? Attendez, c'est quoi les Jeux Olympiques? C'est le meilleur, l'élite de chaque sport. À partir du moment où tu dis aux Jeux Olympiques, on n'envoie pas les meilleurs footballeurs parce qu'ils sont pas obligés d'être libérés, parce qu'on n'envoie que les jeunes, ça ne peut pas être les JO.
Oui, si tu vois
c'est
comme ça.
C'est de la seconde division. Ouais. Pourquoi ne pas faire comme le rugby?
Les meilleurs de chaque sport,
du curling aussi.
Oui, c'est l'élite du curling. C'est l'élite du curling.
Les JO, pour moi, c'est avant tout des valeurs. Et à travers des valeurs, on envoie éventuellement la meilleure équipe qui correspond justement à ces valeurs-là.
Dans ce cas-là, mais pourquoi ne pas avoir fait comme le rugby? Plutôt que le rugby, comme ils savent qu'en 15 jours, on ne peut pas faire une vraie compétition à cause de tout, le rugby s'est dit, on va mettre le rugby à 7. Je trouve que ça aurait beaucoup plus de poids dans l'olympisme de mettre soit le futsal, soit le beach soccer, quelque chose que tu peux faire sur un truc unique.
C'est d'autres disciplines, il ne faut pas se tromper.
Non, non,
il ne faut pas se tromper.
Oui, mais qui regarde le foot au JO? Qui regarde le football au JO?
Non, je suis désolé.
Alors, ouais, Marion.
C'est juste derrière la Coupe du Monde, les JO, quand même.
Ah oui, mais pas les JO de foot. On est d'accord.
Les JO de foot sont énormément regardés. Hein. C'est plus regardé.
Non, les JO c'est les Jeux Olympiques qui sont regardés.
Non,
pas le football, les JO. Très bien, qui a gagné le titre en 2012?
Je viens de le dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous avez écouté.
Non, c'est le Brésil, c'est en 2016.
Il se trouve qu'en fait, les derniers, tu demandes, c'est le Brésil.
Non, c'est 2016, je t'ai demandé en 2012.
Mais je me souviens pas non plus.
C'est là que je veux dire. Moi, toutes les couches de monde, je vais les gagner.
Je peux terminer la phrase, juste. Je termine la phrase parce que c'est pas important. Je trouve que c'est très dommage de dire ah, mais c'est des joueurs, genre en gros, c'est des joueurs sans intérêt, etc. Non, moi,
c'est pas ce que j'ai dit.
Je suis très content, je termine.
Je dis que c'est pas l'idée,
ça termine, le mari.
Je suis très content, surtout que j'ai pas beaucoup parlé la première.
Alors vas-y.
Surtout, moi, je suis très content.
Il y en a un deuxième, t'inquiète pas.
Des Jonathan Iconé, je suis très content de voir Florent Thauvin. Je suis très contente de voir André-Pierre Gignac. Faut arrêter de faire comme si c'était n'importe quoi, que c'était rien. Je suis très heureuse de voir Camavinga, si tous ces joueurs-là peuvent jouer. Moi, je trouve qu'à un moment, si on aime le football, faut arrêter de se dire « Ah ben non, mais il y en a pour Mbappé, Pogba, Griezmann, et puis le reste, ça n'existe pas. » Non, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que ça, au contraire...
Mais très bien, mais ça n'a pas sa place au jeu.
Bien sûr,
mais moi,
ça
je pense
place.
Que c'est parce que la France, les espoirs, comme ils ne gagnent rien, et ça fait je ne sais combien de temps qu'ils ne sont pas allés au JO... C'est pour ça que nous, les Français, on se dit, ouais, est-ce que c'est utile
le football est utile aux JO.
Moi, je te rassure, il n'y a pas qu'en France qu'on se pose la question.
Moi, j'ai l'impression que c'est plus. Moi, je pense, personnellement, moi, je pense, c'est Marion César. Moi, je suis d'accord avec Marion, pour le coup, que le foot aux JO, moi, je regarde les JO, je regarde le foot.
Voilà,
moi,
Vivien.
Moi, je m'en sers. Je pense que c'est parce que la France, aujourd'hui, la
France. On a une histoire d'amour, lui et moi, c'est sûr.
Je pense que la France. Je pense que la France, c'est parce qu'ils viennent de se qualifier et qu'ils n'ont pas allé au JO depuis je ne sais combien de temps.
Depuis
trop longtemps. On se dit, ouais, est-ce que c'est utile? Et comme on se rend compte que ce n'est pas une compétition FIFA et que les meilleurs Français ne sont pas obligés d'y aller,
non, mais dans ce cas-là,
on s'en carotte. Pourquoi? Parce que si on gagne pas, on va se dire,
on a. Si on considère que c'est utile,
tu coupes le micro, Lumaré. Oh, Lumaré, tu parles trop là. Moi, en tant que présentateur d'émission, je n'arrive pas.
Lumaré, si,
vas-y,
si veut,
on t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Mourad, vas-y.
Non, mais on
je
peut lui
t'en prie.
Il peut.
Si je peux parler au moins.
Là,
je peux
te faire une
question. Vous vous écoutez pas. Il peut faire un colloque sur l'impact du football sur les Jeux Olympiques. Non, ce que je voulais dire, c'est que Ripoll, j'ai l'impression que c'est un peu l'école de la deuxième chance, les Jeux Olympiques.
La sixième chance pour lui.
Donc, il sort prématurément au JO, à l'Euro Espoir, en quart de finale face à la Hollande, alors qu'il avait un des meilleurs effectifs, justement, de sa génération depuis des années. Donc, du coup, moi, pour moi, que ce soit Ripoll qui soit à la tête de cette sélection, déjà, c'est le premier bémol. Deuxièmement, les Jeux Olympiques ont toujours été une tribune pour certains joueurs espoirs. Moi, je pense au JO d'Atlanta avec Ronaldo, où on l'avait vu, justement, il avait passé la Coupe du Monde 94 sur le banc, et les JO d'Atlanta lui avaient permis de briller. Il avait inscrit, je crois, à l'époque, 5 ou 6 buts. Donc, les JO, il y a toujours cette magie. Il y avait aussi l'avènement du Cameroun en 2000. On s'en souvient. Après, pour en revenir au foot business, parce que je pense que c'est le parallèle que tu fais. J'ai l'impression que la FFF, effectivement, a fait des pressions sur les clubs en dévoilant prématurément une liste sans consulter les clubs. Mais c'est aussi le rôle de ces JO là, moi, qui m'interpelle. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu l'Europa League. Enfin, les JO sont à la FFF ce que l'Europa League est au club de Ligue 1. C'est-à-dire on fait des pieds et des mains pour mettre en avant des figures de proue comme Mbappé pour pouvoir y participer et dire qu'on allait représenter les valeurs de la France à cette compétition internationale. Et une fois qu'on y est, on ne concerte pas les clubs. Et
ils les ont concertés, non, c'est les clubs
on concerte pas les clubs, mais ensuite on y va avec les Gypsy Kings.
Alors
c'est parce qu'on
y va
pas souvent.
Excuse-moi. Il manque plus que Kenji Girac sur le banc, Chico des Gypsy Kings pour faire une nationale et c'est ramener la médaille à la maison.
C'est parce qu'on y va pas souvent.
C'est parce qu'on parle de Kenji, il rigole.
C'est parce qu'on y va pas souvent. C'est parce que la France n'y va pas souvent. Vu qu'on n'y va pas souvent. On ne sait pas comment procéder. Alors, là, c'est comme si ça nous tombait dessus.
Je trouve qu'il y a un mépris, surtout pour les mecs. Attends,
pardon, alors
moi, je n'en sais rien, mais moi, il connaît les champions de France ou les pas champions de France?
Ils sont trop. Non, mais il connaît, c'est déjà le symbole de l'échec lors de l'Euro Espoir.
Attends, moi, j'ai aucun manque de respect pour eux. Non. Moi, je trouve qu'ils sont très, très forts et ça peut être une très belle équipe. Moi, ce que je dis juste, c'est soit on décide que les JO, c'est une compétition importante. Très bien. Et dans ce cas-là, la FIFA donne des dates. Et les clubs n'ont pas le choix et libèrent leur joueur.
C'est pas une date FIFA. Les JO ne sont pas une date FIFA.
Donc soit on décide que ça devient
discrétion des clubs.
Ça ne devrait pas être au bon vouloir. Soit vous décidez que c'est une sélection et il n'y a pas le choix.
Dans le football,
on s'écoute, Vivien, s'il vous plaît.
Dans le football, est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie? Est-ce que c'est pas la FFF tout en haut de l'organigramme et ensuite les clubs de Ligue 1? Pourquoi la FFF a besoin de jouer de
stratagèmes qui payent en envoyant des fausses pistes? Parce que c'est les clubs qui payent les joueurs.
Non, mais c'est la FFF qui régit.
Un grand merci à John Size, justement, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM.
Merci.
Vraiment, merci de nous avoir accompagnés. Oui, ça m'a
pas
un petit
rêve.
Bien sûr.
C'était un vrai MC, John Size.
Ouais, ben voilà, il était.
MC qui vient,
il était super,
John Size.
On l'a pas eu freestyle, là. On l'a pas eu freestyle.
On est très déçu. Allez, improviser.
Non, on lui mettra une instru. On lui mettra une instru la prochaine fois.
19h, 21h, Time Foot, spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, et oui, pour la deuxième heure, la dernière heure de cette émission avant le week-end. Voilà, peut-être il y en a qui sont déjà en week-end sur les routes ou encore au travail, excusez-moi. Et oui, nous pensons à vous et même aux personnes qui sont toutes seules. On a parlé de cette fameuse équipe de France, et oui, qui rencontrera les Suisses et en huitième de finale de cette phase finale de l'Euro. Et oui, il faut le rappeler, lundi soir, 21h, du côté de la capitale roumaine, Bucarest, les Bleus de Didier Deschamps, justement, on verra bien qui en sortira grand vainqueur. Marion, avec nous, ce soir, avec Vivien.
Oui.
Je rappelle, Marion, et aussi Louis-Marie, et oui, qui n'arrête pas. tout comme Mourad et le coach Tolé qu'on n'entend pas beaucoup. Mourad, on l'a pas entendu beaucoup hein, sur cette première heure.
Si,
tout
si.
Comme Marion. Oh, Marion, tu trouves?
Non, non, je sais pas. Effectivement, on a entendu beaucoup.
On a Fala qui nous dit, ah, on n'a pas entendu Mourad. On a beaucoup entendu Louis-Marie. Voilà. Eh ben allez, c'est le premier sujet.
J'ai beaucoup porté la voix, mais j'ai pas beaucoup parlé.
Voilà.
Aïe, aïe, aïe.
Donc parler fort ne veut pas dire beaucoup.
Exactement.
C'était super sympa avec notre invité Junsei dans cette première heure. Un petit clin d'œil aussi. Allez, il nous a rendu visite. C'est Hamza. Voilà, le petit clin d'œil pour Hamza. Il est là. Hamza, il est avec nous. Salomé, on l'a perdu. Je sais pas. Ouais, il nous vient de Grenoble. Mais voilà, c'est bon. C'est parti en live. Vous restez bien cramponnés
si
sur Beurre FM.
Un de mes films préférés, Les Trois Frères avec
bien les sûr.
Aïe, 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 aïe. Oui, Marion, que dire merci, Les Trois Marion. Frères, Les Inconnus aussi.
Les Inconnus.
Ouais, j'ai pas le magnétoscope.
Il avait. Tu t'arrêtes, quand tu t'olais, hein.
Non, mais vraiment.
Oh, mais, tu t'arrêtes, hein.
Est-ce que je peux dire quelque chose sur l'Euro et l'équipe de France, etc.
Mais on parle de l'équipe de France. Allez, vas-y.
De manière large.
Vas-y.
Est-ce qu'on peut quand même dire que 7 euros à 24 équipes, quand même, moi, je trouve que c'est quand même moins bien que d'habitude.
C'est-à-dire que Louis-Marie. Alors, Vivien le disait la dernière fois.
Je termine ma phrase. Je trouve que 24 équipes, et surtout, je trouve que le fait de l'avoir fait sur pratiquement un continent entier, moi, je préfère quand c'est sur un ou deux pays. On sait où on va, on sait ce qui se passe. Là, je trouve qu'on a quand même eu des chaleurs écrasantes, les 31, les 34, les 37 degrés. Compliqué. Moi, j'ai trouvé ça compliqué, je le dis franchement. Pas que pour l'équipe de France, pour les joueurs en général. J'ai trouvé qu'il y avait des équipes qui n'avaient pas leur place réellement dans une compétition de cette envergure, quoi, internationale qui est quand même très regardé, c'était pas la peine.
Ouais.
Et sur la France et la Suisse, il y a une chose que je veux pas entendre.
Alors,
dans les jours qui vont venir,
c'est quoi?
C'est de dire la Suisse, énorme nation, attention Shakiri, attention à
bon, alors la Suisse, petite nation, Marion.
Voilà, alors. Quand on a été capable de battre l'Allemagne.
Respecter l'adversaire aussi.
Non, mais ça ne suffit pas de ne pas respecter. On rappelle juste la réalité des choses. C'est pas la Belgique, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Italie qui se présente à nous en 8e de finale. Juste, voilà, je dis pas que c'est nul.
Elle change le décor, Marion.
Okay. Elle a
raison. Du respect, pas de la crainte.
Ouais.
Pas de la crainte parce que. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'effectivement, c'est une équipe qui ne joue pas énormément, la Suisse, mais c'est contre ces équipes qu'on a le plus de mal. On réussit mieux contre l'Allemagne,
on réussit mieux contre
le Portugal, qui joue plus haut. Les équipes qui jouent en bloc bas, on a du mal. Donc, si la Suisse n'est pas une grande équipe, et je rejoins tout à fait Marion, en revanche, c'est une équipe qui va nous poser des problèmes parce que ça va être à nous de faire le jeu dans leurs 30 mètres.
Ouais.
Alors, Marion l'a dit à demi-mot, la Suisse est trop Shakiri dépendante.
Absolument.
C'est très lent dans les transmissions. Absolument. C'est un jeu qui n'est pas du tout léché. C'est une défense gruyère. C'est pas volontaire, hein, c'est pas un jeu de mots par rapport à la Suisse.
Mais c'est pas mal quand même.
Et la dernière fois que la France a gagné contre la Suisse, je crois que c'était Franck Sauzé, le capitaine de l'équipe de France. Donc imagine, ça date d'il y a plus de 30 ans.
Non, c'est 2014.
La Suisse a gagné contre la France.
Ah oui, pardon.
Ça date d'il y a plus de 29 ans.
Donc 92 pour être précis.
Joue encore.
Les gars, concentrez-vous sur les
Et c'était d'hiver l'attaquant de l'équipe de France. C'est dire le niveau de l'équipe de l'époque.
Et pour moi, ce match France-Suisse, c'est pas l'équivalent d'un derby. Pour moi, le vrai derby, en fait, pour la Suisse, ce serait d'affronter un Mannschaft, par exemple, où là, il y a un grand vivier, il y a un grand vivier du Borussia Mönchengladbach qui est en place, notamment le gardien Sommer. Il y a Shakiri aussi qui est, c'est un peu l'antichambre de la Bundesliga, donc ils connaissent très bien leur adversaire allemand. Donc éventuellement ils peuvent leur jouer un tour, mais par rapport à l'équipe de France, je pense que moi j'attends rien de la Suisse. Pour moi, Marion dit qu'il n'y a pas de grands joueurs. Pour moi, les seuls grands noms qui existent en Suisse, c'est Patek Philippe, c'est Vincent Vaucheron,
c'est Roger Federer,
c'est Tag Heuer, c'est ces gens-là.
Mais c'est Rolex,
effectivement,
quand même,
c'est Rolex
peu,
aussi. Voilà. Mais j'essaie de trouver des noms composés où il y a des noms prénoms.
Ah bien sûr, d'accord.
Rolex, ça sonne
d'accord.
Brésilien.
Audemars Piguet,
Audemars Piguet.
Voilà, très bien. Nous avons compris.
Donc voilà, mais après, à part Shakiri, éventuellement Zakaria. Éventuellement, Seferovic, comme meilleur buteur du championnat.
Généreux. Ouais.
Non, mais c'est léger.
Je vois pas en quoi ils peuvent inquiéter l'équipe de France.
Mais la réalité, il va falloir quand même.
Alors, le coach Tolé.
Notre équipe de France.
Et aussi Vivien.
Se rassure aussi. J'en doute pas parce que je reviens sur un point que Marion a évoqué. 7 euros, c'est une catastrophe à plus d'un titre. Mais surtout, à partir du moment où tu te retrouves à avoir l'Italie qui joue ses 3 matchs à domicile, à avoir des pays.
L'Angleterre. L'Angleterre qui est la nation la plus favorisée.
C'est vrai que les Anglais ont
joué contre ça. Tu fausses la compétition.
C'est vrai.
Tu fausses la compétition.
Bah, il y a toujours eu des équipes à domicile. Il y en avait qu'une, mais maintenant il y en a plusieurs.
Là, c'est incroyable.
Là, c'est même plus des équipes à domicile.
Là, c'est terminé. Attends.
L'Angleterre, elle a une voie royale.
Ouais.
Tu fausses la
compétition. C'est pas parce que c'est l'Angleterre, c'est encore. C'est un jeu de mots.
Les missions, on a toujours eu, mais forcément, à partir du moment où t'es obligé de te déplacer à droite, à gauche,
ce type de compétition, c'est de la récupération.
Et l'empreinte carbone dans tout ça. Quand tu fais Rome, Bakou, Budapest.
Après, le problème de l'euro dans plusieurs pays, le problème de l'euro dans plusieurs pays, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de pays qui étaient candidats pour le faire seul. Ça, c'est le premier point. Et c'est une histoire business. Donc ça, c'est difficile de le reprocher parce qu'il y avait peu de candidats.
Ouais, mais pour les supporters, ça coûte cher.
Pour les supporters, c'est compliqué.
C'est une catastrophe. Il y en a même qui se sont trompés de vie.
Le vrai problème. Non, mais le vrai problème, c'est 7 euros à 24. On avait la formule parfaite à 16. Ça marchait hyper bien. Il n'y avait que des chocs. Et là, avoir des troisièmes de poule qui se qualifient quasiment sans gagner, c'est n'importe quoi.
Et il est d'accord avec toi, le coach Tony. Oui.
Tu fais un match tranquille à domicile. Toi, tu te déplaces à Budapest, à Bucarest, là, ici, tel aéroport, tel hôtel là.
Oui. Non, mais c'est pas lisible, c'est sûr. Alors, Vivien,
aucun intérêt.
Si on reparle un peu du match, pour essayer d'être plus positif. Non, mais les Suisses, enfin, Petkovic, ça fait 7 ans qu'il est là. On sait comment il joue. On sait qu'ils vont être dans un 3-4-1-2 avec Mbolo et Seferovic. Donc,
qui va se transformer en 5-4-1 finalement.
C'est ça, exactement. Donc, effectivement, bon, devant, moi je trouve qu'à part Shaqiri qui peut, sur un coup d'éclat.
Et sur une frappe de loin, voilà, dans deux de la surface. Contre la Turquie.
Ils sont en fin de course.
Non, mais il y a aussi les noms. Il y a aussi les noms côté Helvète.
Ils peuvent s'embêter sur un ou deux, mais sinon.
Avec la Nati, oui.
Il y a aussi les noms côté Helvète. Est-ce qu'on n'a pas l'ascendant psychologique quand on a un joueur en face qui s'appelle Kevin Mbabou? Donc c'est l'impression que c'est le pendant, on va dire PES à l'époque où Konami n'avait pas les droits de Kylian Mbappé.
Ceci dit, c'est un bon joueur, je veux dire.
Mbappé face à Mbappé. Non mais c'est de la provocation.
Toi tu vas me provoquer tout le monde, toi.
Faut le voir jouer à Wolfsburg aussi, c'est pas non plus. Il n'a pas révolutionné le poste de latéral.
L'inquiétude après ce merveilleux jeu de mots de notre ami Mourad, c'est la seule inquiétude qu'on peut avoir, la seule, et on la connaît, c'est qu'on a une équipe française. Une équipe de France un peu cramée. Faut se dire les choses. Moi, on retrouve pas ce qu'on a pu avoir en 2018. C'est non, mais réellement, faut être clair. C'est-à-dire qu'on a, qu'on le veuille ou non, moi, je trouve qu'on a un Pogba fatigué, même s'il a fait une deuxième mi-temps extraordinaire. Non, attendez.
Alors.
Je suis pas en train de casser Pogba, je l'adore. Oui. C'est pas une question de ça. C'est, je l'ai trouvé fatigué sur la première mi-temps. N'Golo Kanté, je le trouve cramé. C'est bien normal, il vient de gagner la Ligue des Champions. Il joue en première ligue.
On en parlait, justement.
Je trouve Kylian Mbappé, même s'il crée des choses magiques, je le trouve fatigué aussi.
C'est pas ça.
Benzema, qu'on le veuille ou non, je le trouve fatigué aussi, même si ça a été Benzema irrégulier.
Aussi fatigué,
je les trouve tous fatigués.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas chargé un peu la mule pendant la prépa et en préparant justement la phase en essayant d'avoir un pic de forme pour la deuxième phase? C'est une question qu'on peut se poser.
En général, les grosses nations comme la France qui sont amenées, on les a programmées pour aller jusqu'au titre suprême, ont une préparation physique qui fait que normalement ils sont amenés à monter en puissance. Rappelez-vous, il y a 3 ans lors du mondial.
Va dire ça aux Anglais, hein.
Le premier tour.
Va dire ça aux Anglais.
On a dit qu'on parlait des grandes équipes.
Il n'y avait pas de quoi, on n'était pas réjouissant. On a quand même senti cette montée en puissance maintenant. C'est vrai qu'il y a quand même des joueurs dans cet effectif qui sont arrivés blessés.
En plus.
Kanté est arrivé à
la situation actuelle aussi.
Maintenant, la crise sanitaire. Il y a quand même 5 jours de récupération et ça, c'est très bien dans la situation actuelle. Donc, j'ose espérer que cette équipe de Deschamps, comme il a toujours fait, que ce soit à Monaco, à Marseille, où on sait qu'ils sont l'équipe de France depuis maintenant 10 ans, il y a toujours une montée en puissance. Donc,
ça, c'est sûr.
J'attends quand même et j'espère avoir cette.
Rappelons-nous la phase de poule de l'équipe. On revient à Mourad alors. Vas-y, Mourad.
Dans une compétition à 24,
et Vivien aussi.
Il n'est pas sans rappeler que les phases de groupe, généralement, sont des galops d'essai. Donc, c'est pas hyper compliqué de se qualifier pour les phases éliminatoires. Même les meilleurs troisièmes peuvent y participer. Donc là, fini la rigolade. Et les choses sérieuses commencent à partir de maintenant.
Ouais.
Où là, l'euro devient intéressant. Où là, on va avoir des matchs à élimination directe.
C'est
ça. Et là, où on voit justement les grosses équipes arriver à maturité ou pas. Donc, c'est là qu'on va mesurer justement l'arrivée à maturité d'un Karim Benzema, l'arrivée à maturité d'un Harry Kane, notamment où ce sont des avant-centres.
Ouais.
Qui ont peut-être saisi l'opportunité de ces phases de groupe pour monter en puissance et faire les derniers réajustements parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs, parce qu'ils sortaient de blessures, etc. Et c'est là que commence leur compétition.
Et je dirais même que
juste une chose, la grande différence, parce que Louis-Marie disait, et c'est pas faux d'ailleurs, que c'est la même chose qu'en 2018, sauf qu'en 2018, le groupe était entre guillemets facile. Là, c'était un groupe, c'était le plus dur.
Oui, mais psychologiquement,
on sait, bien sûr, enfin, on sait jamais sur un accident.
Moi, je trouve. On
sait jamais. Mais ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, c'est quand même une angoisse pour les joueurs, mentalement, et Claude le sait, on se prépare pas tout à fait de la même manière quand c'est le Danemark et que c'est bon, je parle en 2018, que contre l'Allemagne ou contre le Portugal.
L'Euro 92.
Vivien. Alors Vivien, c'est intéressant ce que vient de dire notre consultante.
Maintenant que cette équipe va passer les poules, monte en puissance, ce qu'on espère voir un petit peu tous, c'est peut-être un match référence contre la Suisse, par exemple. On aimerait peut-être que les Bleus surclasse la Suisse comme l'a fait l'Italie en phase de poule. C'est ça qu'on espère voir.
Attend, oui.
Sur le côté gauche du calendrier, la France a peut-être l'adversaire le plus, on va dire, le plus facile.
Facile.
Le
plus facile des huitièmes. Donc c'est pour ça.
Même s'il est très contesté, ce côté gauche du calendrier.
Mais après, ouais. Après, honnêtement, je pense même qu'on parlait de préparation. Je pense que le huitième, c'est encore une préparation. La compétition pour la France, elle est censée commencer en quart.
Il faut en profiter, le Marie.
Donc, quelle condescendance.
Non, mais quand t'es champion du monde et que ça, tu sais que c'est un Euro 24, à mon avis, ils sont
profitant.
Tu parles de tennis, Vivien, mais je vais reprendre ce qu'il dit.
Alors,
c'est
vas-y.
Que dans le tennis pro,
ouais.
Pour connaître bien le sujet, quand tu arrives, les grands joueurs, ils sont prenables jusqu'au huitième. Jusqu'en huitième de finale, ils sont en danger d'une mauvaise surprise parce que physiquement, ils sont pas encore là. Ils sont programmés.
C'est une question de motivation aussi.
Non, physiquement, vraiment, ils sont prêts pour les cinq derniers jours d'un tournoi. Ah, c'est pareil en foot.
Je pense que t'es pas excité à l'idée d'affronter le 150e mondial lors du premier tour.
Il y a quand même beaucoup plus de surprises au football qu'au tennis, hein.
Bah oui.
Non, mais déjà les parallèles tennis football.
Non, mais c'est juste un exemple juste de préparation.
Rejoins,
la
Hongrie, tu vois la Hongrie, on en a pas parlé une fois la Hongrie.
Mais ça a failli.
On peut dire ce que l'on veut. On en a parlé. Les trois sélections ont tremblé. Hein.
Bien sûr, mais à l'arrivée, ce que j'ai vu, c'est que quand tu es sur un Euro à 24,
elle a été actrice de ce groupe, justement, la Hongrie. Et c'est là que certains peuvent remettre en cause le parcours de la France.
Pourquoi la Hongrie a été. On revient sur ce qu'on disait. Pourquoi la Hongrie a été actrice? Parce qu'elle a joué chez elle aussi. Parce qu'il y a eu. Rappelez-vous quand même. Le stade plein.
Dire
ça aussi, c'est pas. Un stade plein dans un pays, un stade à 5000 dans d'autres, c'est n'importe quoi.
Et qu'elle a joué. Avec une préparation qui était ciblée sur ses trois premiers matchs. Elle jouait sa vie d'entrée et que les trois autres équipes, à mon avis, jouent pour jouer en quart.
Alors, le coach étonné, oui.
On a été capable de sentir aucun des joueurs sélectionnés lors de cet Euro. Ça, c'est une réalité.
Oui.
On parle comme du Portugal, de l'Allemagne et de la France.
C'était le groupe de la mort. Et la France, faut savoir que la France, même si c'est un parcours honorable, elle finit premier de ce groupe de la mort, mais elle finit premier avec le plus petit nombre de buts, ce qui démontre aussi la difficulté de ce groupe, et le plus grand nombre de buts encaissés. Donc ça, c'est des statistiques qu'il faut pas prendre à la légère.
Faut pas les prendre à la légère, voilà, c'est sûr.
Ça envoie un message, justement, mais voilà, c'est un groupe relevé, un groupe compliqué. La Hongrie, à domicile, aurait pu être la surprise de cet Euro au même titre que le Pays de Galles ou le Danemark, ce sera pas le cas. Moi, je mets une petite pièce sur le Pays de Galles comme étant la surprise.
Moi,
je
mettrais plutôt le Danemark. Ils ont un feu sacré un peu comme en 92. Mais juste pour finir sur cette histoire,
ils ont des notions en termes de surprise déjà.
Non, mais juste cette histoire, c'est juste dire, voilà, le roi 24, Marion a commencé par ça. C'est son problème. C'est le problème, c'est que ça qualifie quasiment tout le monde et ça n'élimine une telle phase de poule qui sert quasiment à rien.
Excuse-moi, Marie, si Marion avait que le roi 24 comme problème dans la vie, elle serait très heureuse.
En tout cas, sur sa première intervention tout à l'heure.
Non, mais c'est vrai, mais je trouve que il y a quand même toujours cette idée dans le football limite de vouloir faire de l'humanitaire. C'est-à-dire d'un côté, c'est très fric le foot.
C'est
côté,
du business. Hein, les
et de l'autre côté,
ça fait plus de matchs, plus d'argent.
Oui, ça fait plus de matchs, plus d'argent, mais il y a aussi un côté. Oui, mais c'est aussi le côté. À l'extérieur, vous voyez, on a aussi des petites nations, et c'est bien.
Non, mais ça, c'est de la com, voilà. Ça, parce que pour de vrai, c'est les sous qu'on décidait à faire les 24.
Est-ce qu'on aurait découvert un chic de la République tchèque?
Ce qui est sûr.
Est-ce qu'on aurait découvert le gardien de la Finlande qui a un nom imprononçable?
Oui, mais on les découvre pour combien de temps?
Ça
peut être des potentiels recrues pour le
Chic. Attendez, Chic, c'est pas un anonyme. Arrêtez, Chic, c'est pas un anonyme. Il est quand même référencé depuis toujours.
Il y a une chose quand même que je voulais dire sur l'équipe de France, quand même.
Oui.
Parce que Mourad a donné une stat qui est vraie. On a quand même un tout petit problème, moi je trouve, défensivement. C'est-à-dire qu'on a quand même deux bons défenseurs qui sont Varane et Kimpembe, mais réellement, si on réfléchit bien, on préférerait avoir en équipe de France Ramos, qui est quand même celui qui tire vers le haut Varane, et Marquinhos qui tire vers le haut Kimpembe. Moi je trouve que Kimpembe c'est très sympa, c'est un titi, on l'adore.
Que les Européens, c'est l'an
prochain. À Paris, on l'adore. Et de l'autre côté, on a, s'il n'a pas de blessure, l'ami Ramos, hein, parce que moi je vois bien au moins un pauvre match un 5 décembre à Montpellier, à la Mosan, et poum, c'est la fin de carrière. Bon,
est-ce qu'il serait capable d'aller jouer un 32 deuxième de finale à l'extérieur à Caen, en plein hiver.
Voilà. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit pour finir que cette charnière centrale, elle n'est pas hyper sûre, elle n'est pas hyper sereine. Même si Varane a fait un match... moi, je ne le trouve pas sûr, Varane, et Kimpembe, encore moins. Je sais que beaucoup de gens le défendent, Kimpembe, hein, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur.
Moi, j'ai trouvé en difficulté contre le Portugal. Hein.
Il manque le collier Umtiti. En 2018, c'est lui le patron mental de l'équipe en défense.
Allez, des petites infos, Sport & Co, ici à venir, avant la pause.
Excuse-moi, Claude, avec le Portugal, le Portugal marque sur pénalty.
Oui,
deux fois par Cristiano Ronaldo. Moi, là où jugerai la charnière centrale de l'équipe de France, c'est sur le but de la Hongrie. Là, il y a un gros problème de coulissement. Là, on voit. Les problèmes des latéraux.
D'accord avec toi, même
justement de la charnière centrale.
Absolument.
Sur le but.
Merci Mourad, merci Marion, et aussi le coach Tolé, et toi aussi Vivien. J'aimerais m'attarder avant la pause, Yanis, rapidement. Et oui, le parcours du Tour de France 2021 du 26 juin, on le rappelle, au 18 juillet, justement, ça part dès demain du côté de Brest et on escaladera aussi par deux fois, pour la première fois, le mythique Mont Ventoux dans les terres de la Provence, du moins ou du côté des Alpilles. Voilà.
Et magnifique. C'est
pour la première fois dans l'histoire de
les
la Grande Boucle.
Les régions les plus sous-cotées.
On va essayer de revenir sur Wimbledon et c'est promis sur le Grand Prix de Syrie en Formule 1. À de suite.
Time Foot Spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot Spécial Euro 2021. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, à fond la caisse avec Louis-Marie. Eh oui, faut le dire, c'est comme ça. C'est un certain Guillaume qui a enchaîné comme, c'est ça, hein? Guillaume, il disait, à fond la caisse sur Tam Sport. Eh oui, votre radio, la radio de la diversité, Beurre FM. Un plaisir et un grand merci à toute la direction de Beurre FM de nous laisser justement cette antenne chaque soir. Eh oui, Louis-Marie, faut le dire. Eh oui, Mourad. Eh oui, le coach Tolé. Sans oublier Vivien et notre ravissante consultante qui est Marion. Marion, il y a le Tour de France qui débutera dès demain du côté de nos chers voisins bretons. Eh oui, à Brest. Ça fait plaisir de revoir ce fameux Tour de France.
Mais oui, à Brest, parce que la ville de Rennes a refusé pour des raisons écologiques.
Ouais.
Pour des raisons écologiques purement stupides, on peut le dire clairement. Alors Brest a dit, on est là, d'accord. Nous. On est là, on est là. Et finalement, ça part de Brest. Eh bien, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne chose. Mourad se moquait de moi tout à l'heure, pendant la pub, hors antenne.
C'est pas mal, le Tour de France.
En me disant, mais le Tour de France, toi, ce qui te plaît, c'est le côté des belles images, etc.
Ah, c'est bien filmé, oui, Mourad.
Mais oui,
Mais Mourad aussi, les regarde.
Absolument.
Non, mais je te jure qu'il doit être posé, Mourad.
Lorsqu'on est adepte de ce type d'image, autant regarder la chasse au trésor sur France 3.
Mourad, arrête. Non, Mourad.
Il faut bien s'occuper pendant les 3 heures de plaine où on s'embête complètement à regarder le peloton se balader.
Oui, mais ça, ça va lui plaire du côté de Londres.
Je regrette simplement qu'il n'ait pas Egan Bernal, qui est quand même exceptionnel, qui est le meilleur de sa génération, selon moi, qui a gagné le Giro il n'y a pas.
Alain Philippe sera là, en tout cas.
Voilà, il ne sera pas là, mais Alain Philippe sera là. Voilà. Et ça,
et
c'est
on l'espère. Allez, le sacre.
Et le parcours est pour lui.
Ouais.
Au début,
on l'espère.
Il doit prendre le meilleur jeune ce week-end.
On verra bien, Louis-Marie.
Oui, à peu près.
Pour
une semaine, c'est
sera le Wimbledon version 2021. Eh oui, Louis-Marie, là-bas aussi. Ça se passe, ça fait un plaisir là, Mourad. Mourad va bien regarder ça.
Ah bah retour dans le temple, du tennis. Hein, c'est n'en déplaise aux aficionados de Roland Garros. Alors qu'est-ce qu'on va suivre cette semaine? Bah la dernière de Roger qui pourrait arriver très 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 vite parce qu'il a un tableau bien compliqué. Et il y a notamment un match que j'ai envie de voir au second tour parce que ça donne envie entre anciens. Un petit match contre Richard Gasquet qui va être vraiment sympa.
En français,
il y a de bonnes chances que ce match Gasquet-Federer au deuxième tour, ça pourrait être intéressant. Et surtout, si vous avez un match à voir lors du premier tour, branchez votre télé sur Humbert Kyrgios. Humbert, qui est un jeune Français qui vient de gagner un 500 à Halle en jouant très très bien, en sortant 3 top 10 et qui joue le joueur le plus fantasque et le plus imprévisible
du
circuit.
Qui n'est pas grec, mais australien.
Qui est australien et ça va envoyer du très très sale.
Ouais.
Ça m'a perturbé.
Mourad, tu voulais réagir tout à l'heure.
Non, j'écoute religieusement Louis-Marie parce que c'est un spécialiste. Mais pour moi, Wimbledon, c'est plus Vinnie Jones et cette fameuse équipe
du Crazy
de première chip et de première ligue des années 90.
Ouais, voilà. On l'aura compris.
Beaucoup moins élégant, du coup.
Alors justement, pour parler du tennis.
Vas-y.
Parce que sur le PAF, dans le paysage médiatique, il y a beaucoup de journalistes footballistiques qui parlent de foot, mais on sait que leur sport préféré, c'est le tennis. Donc pour une fois, justement, moi, je ne suis pas ridicule à l'idée de penser que je parle de foot sur un plateau de radio, mais je ne suis passionné que par le foot.
Ouais.
Donc voilà.
Voilà, au moins c'est dit.
Au moins c'est dit.
Voilà, merci Mourad. On va essayer de prendre la direction de Syrie aussi, parce que ce week-end va se tenir son Grand Prix. Et oui, Vivien.
Exactement.
Et Verstappen qui colle, et il colle derrière Lewis Hamilton, le Britannique.
Et il a même pris la tête du championnat, il a 12 points d'avance, et là, on a eu déjà les deux premiers essais libres, et pour Mercedes, ça se passe pas très bien. Sachant qu'en ce moment, Red Bull est un peu plus performant. Aux essais libres, Hamilton est encore dominé, donc là c'est vraiment l'année où Hamilton peut être battu selon moi, parce que je trouve quand même que alors la Red Bull un peu plus performante, mais d'habitude les années précédentes Hamilton faisait quasiment jamais d'erreur. On se souvient encore d'une erreur de volant qu'il
puissance.
A fait.
Il a peut-être plus de marge.
Bien sûr, mais il faut pas oublier l'erreur de volant qu'il fait. Il y a 3 grands prix où il part.
Mais est-ce que le fait justement qu'il soit pressuré par Red Bull ne lui fait pas commettre des erreurs?
Bien sûr. C'est un peu comme Michael Schumacher, c'est-à-dire qu'il a dominé pendant quelques années. Maintenant, ça rappelle un peu Schumacher avec Alonso, et Verstappen, ça peut être celui qui va le détrôner comme Choumi s'était arrêté à 7 et finalement on pensait qu'Hamilton allait gagner facilement 8-9 titres et là finalement cette année il y a vraiment match. Ouais.
En tout cas ça sera un très beau week-end de sport, hein, on le rappelle, hein, Wimbledon, le Tour de France et aussi ce Grand Prix de Formule 1 du côté de Styrie. Oui Mourad, on va revenir à l'équipe de France rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Allez.
Time Sport, l'actu bleu.
Voilà, lui il veut déjà partir en week-end, on l'aura compris, c'est le réalisateur, cher auditeur de Beurre FM. Vous inquiétez pas, on est ensemble jusqu'à 21h. Marion, quel est le facteur X pour cette équipe de France? Oui.
Alors,
le joueur, qui pourra. Alors vas-y. Allez, vas-y.
Il n'y a plus d'histoire de joueurs, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont tous fatigués, cramés, doivent dormir, enfin
Marion, tu nous fais peur quand même des fois quand tu enchaînes comme ça.
Non, pas du tout. Mais ils sont un peu, je vous assure, moi je les trouve juste inquiétants là-dessus. Je les trouve fatigués. Mais
est-ce que les autres
équipes, j'ai l'impression d'entendre ma mère avant mon activité du mercredi après-midi.
Absolument, c'est tout à fait important. Mais pourquoi? Non, je pense que l'homme de la situation, voilà, je vais prendre de la hauteur. L'homme de la situation en tout cas pour moi, le sélectionneur de ce premier tour, toute équipe confondue pour moi, c'est évidemment Didier Deschamps parce que il arrive à faire ressortir son équipe en étant première de ce groupe. Le joueur qui m'a le plus impressionné, moi personnellement, c'est Lukaku. Je l'ai trouvé très sûr, extrêmement technique, extrêmement puissant. Vraiment, encore un joueur qui est souvent sous-côté.
Il est pas en équipe de France, lui, non ?
Non, non, mais je dis ce qui m'a plu, machin. Et pour terminer. Et là, je vais sortir un peu. Je trouve que défensivement, j'étais assez impressionnée par Chiellini et Bonucci. Je pensais qu'eux aussi étaient cramés, épuisés, et qu'ils avaient besoin d'un petit massage, d'une petite sieste, et même d'une maison de retraite. Je me disais, il y en a un qui va fêter ses 73 ans et l'autre 74 ans. Eh bien, je les trouve tout à fait exceptionnels. Je mettrai une petite pièce, évidemment, sur la France.
On en parlait durant la semaine avec le coach Tollet.
J'attendais de voir Bonucci, Chiellini contre une équipe où ça va vite devant.
Oui, c'est sûr.
Dans les duels, Chiellini, Bonucci, etc. Bon, ils ont été au rendez-vous. Dans la possession, pour moi, c'était un peu frileux. Et pour moi, l'Italie n'a pas été testée. Donc, pour l'instant, je dis pas que c'est un argument non valable, mais on attend de voir ce qui se passera.
On attend.
C'est une incertitude. Hein.
Après, moi, mon coup de cœur, il est du côté de la Belgique, mais pas pour Lukaku, et du côté de Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne, lorsqu'il fait son entrée, il change carrément. Déjà que la Belgique, c'est du haut niveau. Et l'entrée de Kevin De Bruyne avec cette Belgique, quand il arrive face à la Russie ou face au Danemark,
contre le Danemark
alors, il aussi.
Alors qu'ils n'étaient pas bien,
il renverse la vapeur. Ouais. Et du coup, il a montré justement toute la classe et toute l'étendue de son talent.
Surtout donc, après la blessure qu'il avait prise.
C'est Kevin De Bruyne. Et si on peut parler de révélation, parce qu'il y en a quelques-uns, pour moi, c'est Damgaard, le Danois.
Damgaard, c'est vrai. J'en parlais, moi, de ce joueur.
Et j'en parlais au début de cet Euro, justement, en émission. C'est un dribbleur fou. Et pour moi, ça peut être aussi le facteur X de cet Euro, même si j'ai un petit coup de cœur pour le Pays de Galles.
Ce qui est dingue, c'est que je trouve qu'il y a quand même un joueur, mais vraiment, je trouve sous-côté, c'est Lukaku, parce que je viens d'en parler.
Lukaku?
Personne n'en reparle. Pardon, il est champion d'Italie.
On n'a pas répondu.
Ah, alors Claude Tollet
Justement, déjà.
J'ai étudié un truc, c'est qu'on a la chance.
Et il en a beaucoup parlé, le coach.
Qui est 24 équipes, d'avoir pour moi 3 des 5 meilleurs attaquants du monde. En l'occurrence, pour moi, Benzema, Lewandowski et Lukaku. Quand tu vois ce que fait Lukaku depuis X temps et quand tu regardes ses stats, en fait, je pense que ce qui joue en sa défaveur, c'est son palmarès. Le fait qu'il soit belge, la Belgique, ça fait pas forcément rêver aussi. Le fait qu'il ne soit pas brésilien et malheureusement, comme Koulibaly à Naples, d'origine africaine. Mais je pense qu'il montre clairement qu'aujourd'hui, c'est l'un des 2-3 meilleurs joueurs.
Et champion d'Italie quand même, c'est son nom.
Et puis ses stats sont impressionnantes.
C'est impressionnant.
Il est extrêmement complet. Et ce qu'il dessert, tu parles de la Belgique qui n'est pas sexy. C'est une sélection sexy, mais sauf qu'il y a 2-3 joueurs avant lui qui représentent, qui incarnent cette équipe. Ça a été Eden Hazard pendant longtemps, c'est Kevin De Bruyne aujourd'hui. Il a jamais été le porte-étendard de cette équipe. Et ça le dessert.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le cite dans les 3-4 meilleurs.
Personne n'en parle pour le Ballon d'Or, alors qu'il doit être top 5 cette année.
Je ne pense pas qu'il souffre d'un problème d'image pour deux raisons. La première, c'est les titres. Que ce soit en équipe nationale ou en club. En équipe nationale, pour l'instant, la Belgique n'a rien gagné. Il marque beaucoup de buts. Je crois que c'est 50 buts en 53 matchs, certes, mais en équipe nationale.
S'il a pas passé les 60
la Belgique n'a rien soulevé pour l'instant. En club, on a l'impression que, certes, il évolue dans le haut du panier en termes de club à l'Inter qui est champion d'Italie.
Ouais, c'est
mais
pas mal.
Allez, sur l'échelle européenne.
Il n'a jamais joué la gagne en Ligue des Champions.
Il a jamais joué les premiers rôles, que ce soit avec Manchester United ou avec l'Inter de Milan. Donc moi, je l'attends justement. De le voir passer un cap
dans ce tournoi.
En Ligue des Champions, et là, il pourra rentrer dans le cercle. Je finis dans le cercle très fermé des joueurs de très très haut niveau et des meilleurs avant-centres actuellement. Et
après, il y est,
bien sûr.
Player.
Et après, moi, j'ai une petite préférence, c'est pour ça que je l'ai pas cité, pour les meneurs de jeu. Et j'ai pas cité Lewandowski, aussi, qui a mis, qui est aussi du même niveau. Et j'ai pas cité Karim Benzema. Mais pour moi, j'ai une petite préférence, voilà, pour ceux qui font le jeu.
On reviendra à l'équipe de France, oui. Le coach de Tolède, Vivien.
T'as quand même le sentiment qu'il y a des joueurs, on est obligé d'attendre. Il y a tellement de joueurs.
Benzema, on a attendu.
Il a gagné. T'as tellement de joueurs qui n'ont pas forcément de meilleurs palmarès que Lukaku, mais qu'on a entendu. Le gars, quand tu as ses stats à Lukaku, on en parle quasiment jamais.
Ouais.
Non, mais elles sont hallucinantes.
Non, mais Ali Daei, il a 109 buts aussi. C'est le meilleur buteur de l'histoire du football.
On peut faire parler en Europe, c'est vrai. Lukaku était en avance sur Cristiano en termes de stats.
T'es obligé d'attendre. Au même âge.
J'attends son but en finale de Ligue des Champions. Et là, la boucle sera bouclée, selon moi.
Ça, c'est intéressant, le coach. Oui, Vivien.
Lukaku, c'est un joueur fabuleux. Moi, je pense qu'il lui faudrait peut-être un but marquant, par exemple, en quart ou en demi. Si 7 euros par exemple la Belgique va au bout et qu'il marque même juste un but décisif contre la France, pas contre la France, qui sont dans la même.
Même qu'il a un rôle de Giroud belge, moi ça me va, je signe tout de suite. Non, et là, moi, pour moi, il rentrerait dans le cercle very VIP des avancées.
Mais je pense que c'est en termes de souvenirs. Si par exemple en demi, parce que la France et la Belgique sont dans le même tableau, il met le but qui élimine la France, là par contre, en termes d'image.
Moi je pense que la Belgique sera pas en demi. Parce que moi, je pense que l'équipe qui m'impressionne beaucoup et que je trouve extrêmement complète, même si elle a pas été, même si elle a eu des temps morts, c'est le Portugal. Encore une fois, on n'en parle pas. C'est une équipe qui a sans doute, quand on regarde le 11, le moins de trous par rapport aux autres candidats. Ils ont un très bon gardien.
Ils ont pris une 4.
Ils ont
le Portugal, donc, ils sont comme nous.
La Belgique, alors. Ils ont pris beaucoup de buts contre l'Allemagne, certes.
Ils ont raté le match.
C'est un premier tour.
Mais quel match que tu as loupé? Tu loupes un match en faisant 1-1.
Ah non, mais on verra. C'est juste un pronostic. Pour moi, le Portugal, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou dans cette équipe.
Pour toi, comment Santos il veut jouer? Parce que moi, justement, j'ai du mal à voir ce que
c'est.
C'est
un poil à gratter.
Sur le banc avec leur manager Santos. Tu fais les mauvais choix. Ils n'ont pas de trou, mais ils ont un gros manquement. Quand tu joues avec deux clones, William Carvalho et Danilo au milieu de terrain.
Exactement.
Je pense qu'il y a un problème de schéma tactique.
Moi, je pense que Bruno Fernandes va revenir. C'est le joueur cette année qui a joué le plus de matchs. Il l'a mis
Bruno
au frigo
Fernandez,
pour l'autre faire. Oui, non, mais justement pour le reposer.
C'est symptomatique, je trouve, de ce que disait tout à l'heure Claude hors antenne. C'est-à-dire qu'on est passé de Lukaku à Rui Patricio, et on dit Rui Patricio est bon. Non, Rui Patricio est beau. Ça, c'est tout. C'est-à-dire ce mec, depuis des années, je le regarde, parce que je le trouve quand même d'une beauté exceptionnelle.
Ça n'impacte pas.
Vas-y.
Donc ça veut dire que je l'ai vraiment beaucoup regardé, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire.
Le Rui Patricio,
à la différence de Lukaku, alors c'est pas le même poste, on est bien d'accord. Il est beau gosse, il est bronzé, il a de l'allure. Lukaku, ça ressemble à rien. C'est puissant, c'est gros, mais il n'empêche que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. En tout cas, sur Rui Patricio, pardon, mais c'est à cette table que j'entends que Rui Patricio est un bon gardien. Mais non,
c'est pas un point faible. Je trouve que c'est un peu dur de dire que c'est un point faible. C'est un bon gardien.
Les gardiens portugais sont des points faibles depuis des années.
Ça peut être un point faible.
Ah oui, point faible selon toi.
Louis, pour revenir au Portugal, peut-être.
Mais on verra contre la Belgique.
Le Portugal s'en sort très bien contre la Hongrie à domicile, la Lousse.
Oui.
Ça a été très chaud pour eux.
Très chaud.
Ils en prennent 4 contre l'Allemagne. Nous.
Tu te souviens ce qui se passe en 2016 en match de force de poule?
Ils en prennent 3-3 contre la Hongrie. Ils en prennent 2 contre la France.
C'est marrant. C'est
un troisième.
Non, mais merci Claude, parce que.
Je pense que Louis-Marie, il est amnésique.
Non.
Si je peux juste rebondir.
Vas-y, Mourad.
Louis-Marie, je pense qu'il analyse. Il fait ses analyses en regardant les scores sur une application connue qui s'appelle LiveScore. Si tu regardes. Excuse-moi, Claude Tollet.
Oui, parler de Pépé.
On peut parler aussi des latéraux.
Oui.
Là, je pense que Portugal, Hongrie, lorsqu'on analyse le score, on voit les résultats, on se dit que le Portugal a dominé le débat de la tête et des épaules.
Ah non, je te parle du Portugal, Hongrie de 2016.
Avait l'opportunité de leur mettre 2-0 juste avant la mi-temps. Alors que le Portugal, justement, marque, ouvre le score à la 86e minute.
Et
ensuite, on connaît la Suisse.
La Hongrie a tenu. Ce que je dis, c'est qu'ils ont joué comme ça en 2016. Tout le monde a fait jeu égal avec le Portugal. La Hongrie leur en aura collé 3 en face de poule. Ils ont fait 3 partout. tout le monde a fait jeu égal, voire ont été meilleurs qu'en 2016. À la fin, ceux
avant
qui
la pause, la dernière.
Est-ce que je peux juste finir?
Ils ont le même ADN.
J'aimerais avoir. Alors, c'est insupportable. Et le coach Tolé.
Le dernier match de la poule de l'équipe de France. Il y a un rapport de force qui s'installe. Il y a France, Portugal 2-2. Le Portugal s'arrête de jouer à 20 minutes de la fin du match. Est-ce quel message t'envoies justement à tes concurrents directs et qui soutiennent éventuellement le fait que le Portugal serait favori pour cet Euro?
Il y a c'est un pas dit favori, hein.
Non, mais il souffre d'un problème de confiance.
Alors,
et c'est justement c'est ce qui symbolise justement.
Moi, je trouve que c'est mieux joué que nous.
Hein. Pas on peut
l'apercevoir.
Le coach Tolé.
Moi, je trouve qu'ils ont mieux joué que nous contre nous.
Moi, je trouve chacun eu son mi-temps.
Le coach Tolé.
Est-ce que je peux me permettre de dire une chose? Sur le Portugal, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il y a des trous au Portugal. Il y a des trous clairs. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Louis-Marie sur 2016 et aujourd'hui. 2016, ils étaient aussi plus frais, plus jeunes, plus on les attendait pas.
Ils se sont renouvelés, hein.
Il y avait moins de pression. N'oublions pas qu'aujourd'hui le Portugal arrive en ayant une certaine pression. Moi, je trouve qu'il y a quand même des nations qui sont meilleures que le Portugal, à commencer par l'Allemagne, à commencer par la France, pardon, mais même si la France a été sans doute moins belle à regarder jouer l'autre soir contre le Portugal, au bout du compte, c'est serein, c'est costaud, c'est cramé, mais c'est bon.
Je te dis pas, moi et c'est marrant parce que j'ai pas du tout la même analyse. Tu parles de pression. Pour moi, depuis que le Portugal a soulevé l'Euro 2016, Cristiano n'a plus aucune pression en sélection. Alors qu'avant, c'était l'enfer. Il y avait une pression, il l'attendait à chaque fois. Maintenant, je pense que le Portugal,
ils ont des latéraux. Ils ont Guerrero qui marque contre son camp. Ils ont Semedo qui joue les seconds rôles, qui est le remplaçant, cette case,
elle est cochée. Maintenant, ils ont moins de pression.
Ils ont un milieu de terrain immobile. Ils ont Bruno Fernandes qui est à côté de la plaque. Ils ont Bernardo Silva qui essaye de tirer son épingle du jeu.
Merci, Mourad.
Je suis désolé, le Portugal, c'est...
Merci Marion, on va revenir avec l'équipe de France, c'est promis. Rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, pour la dernière partie de ces deux heures.
Time Foot spécial Euro 2021 revient dans un instant. 19h, 21h, Time Foot spécial Euro 2021 avec Bilal Nenman.
Eh oui, de retour pour la dernière partie de cette émission en ce vendredi soir. On le rappelle, 19h, 21h, c'est du lundi au vendredi jusqu'au 11 juillet, le soir de la finale. Voilà, on espère, Louis-Marie, il est souriant, tout comme Mourad. On espère que ça soit le fameux sacre de l'équipe de France après celui de 2018. Eh oui, personne n'y croyait. Marion y croyait, il n'y en avait pas beaucoup. Kamel aussi, Mariam aussi, oui.
Je plaisante, j'étais la seule.
Eh oui, il n'y en avait pas beaucoup.
J'étais toute seule. Et j'étais la seule à dire.
Mais il n'y en avait pas beaucoup, Mariam. On était là.
Tu as dit, Vivien, le meilleur sélectionneur de la compétition, c'est Didier Deschamps. Moi, je l'ai dit.
Elle avait dit. En tout cas, on est ensemble durant ce mois de l'Euro. Eh oui, avec le coach Tolé, c'est ça.
En 2002, j'ai dit que la France allait aller en finale contre l'Argentine. Les deux sont ramassés au premier tour.
Ça, c'était un peu chaud. Mourad, Louis-Marie, Vivien sont toujours là. Et Yanis, c'est avec nous aussi, le réalisateur. Ouais, on n'a même pas consulté le standard, c'est pas bon ça. Il faudrait nous appeler, les auditrices, les auditeurs de Beurre FM. À savoir que Fala nous balance cela aussi. On n'en a pas parlé, c'est vrai, Fala. Il nous écoute ce soir. Parler aussi des supporters français qui devaient aller voir le match France-Portugal à Budapest. Et qui ont fini du côté de Bucarest.
Je sais, mais ça prouve que Fala, il suit aussi.
Il faudrait se rapprocher de l'équipe de l'éducation nationale, justement.
Là, il y a un vrai problème de géographie
à faire.
Ouais, non, mais moi, ce qui me fait rire depuis des années, j'entends, mais ça depuis que je suis née. Les Américains n'ont aucune culture. Ils ne savent pas placer Paris sur une carte. C'est un truc que j'ai entendu toujours. Et ils confondent Paris et Berlin. Bucarest et Budapest. Quand même, ça se ressemble, mais c'est une catastrophe. Non, sincèrement, c'est une catastrophe.
Les Anglais ne se sont pas trompés sur Bucarest et Budapest, c'est parce que Budapest est très prisé pour les enterrements de vie de garçons.
On sait pourquoi.
Donc je pense que c'est juste par rapport à ça en fait qu'ils ne se sont pas trompés. Sinon, on aurait vu des Anglais.
C'est une ville charmante, Budapest.
C'est ça. Et Claudie, elle est.
Les gars, ça suffit maintenant.
On va l'appeler le consultant des Carpates à partir d'aujourd'hui.
La Roumanie
est très sous-côté. Je suis d'accord avec toi. Très sous-côté, je vous recommande.
Aussi, un grand voyageur, Louis-Marie.
Vraiment, ça vaut le coup.
Très bon connaisseur.
En tout cas, les supporters se sont plantés.
Eh oui,
il y a des bonnes sections de football féminin là-bas.
La France qui rencontrera donc la Nati. Eh oui, les Suisses, le pays voisin. on l'espère. Eh ben oui, cette qualification de nos chers Français, la bande à Didier Deschamps. Comment aborder ce match-là? Eh oui, Vivien, avec toi. Allez, avant de terminer cette émission.
Du côté de Deschamps et des Bleus, faut avoir envie de d'avoir un petit peu peut-être un match référence, c'est-à-dire tout ce qu'on a évoqué, les inquiétudes en défense,
ouais,
autour de Kimpembe, Varane, ça va pas.
S'il y a pas de match référence et qu'on gagne l'Euro, je te jure qu'on signe. Hein.
Oui, mais non, mais t'es en huitième. Non, mais t'es en huitième. Oui. Sinon, si on dit ça, on dit on se qualifie 1-0 et on s'en fout.
Eh ben moi, ça va. Je suis d'accord avec Vivien.
Parce que la Grèce en 2004 a eu un match référence.
Oui, mais dans ces cas-là, on fait pas d'émission. Si on est juste là, s'il faut qu'on se qualifie, on passe pas deux heures à.
Non, la question, c'est savoir comment on va se qualifier.
Oui. Ah bah,
quelle est tactiquement comment on doit aborder. Ouais. Allez, pour moi, c'est pas l'idée de faire un match référence, parce que ça veut. Moi, je trouve que cette expression, elle est un peu. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Mais moi, ce que je pense en termes d'approche tactique, c'est qu'il va falloir oser avoir de l'ambition, parce que ils vont nous attendre bas.
C'est quoi avoir de l'ambition?
Avoir de l'ambition, c'est se dire qu'il va falloir mettre une ligne de défense haute. Réussir à mettre des joueurs qui peuvent combiner dans les petits espaces parce qu'on va avoir un bloc qui va être essayer d'être solide tout du moins. Ne pas mettre un Tolisso en ailier droit et pourquoi pas tenter enfin.
Ça, c'est la moindre des choses quand tu joues Lanati.
Oui, mais bien sûr, mais c'est la moindre des choses. Mais bon.
Et Lanati, enfin, elle est prenable. Moi, j'attends rien de la Suisse, mais faut savoir que Lanati, l'équipe helvète, c'est pas une équipe qui joue forcément bloc bas et qui laisse le ballon à son adversaire. Pour avoir regardé un peu le match, ils ont souvent la possession de balle et ils se rapprochent souvent des 50% face aux grosses équipes. Et ils ont battu l'Espagne et il me semble la Hollande il y a pas si longtemps que ça. Donc ce sera pas un petit morceau. Ce sera pas un petit morceau. Après pour en revenir à l'équipe de France,
ça serait plutôt une bonne chose qu'ils aiment avoir la balle.
Alors exactement. Donc c'est une bonne chance pour l'équipe, une bonne chose pour l'équipe de France. Pour en revenir à l'équipe de France, ils seront amputés de tout leur côté gauche. Et moi j'ai une petite pensée émue à Théo Hernandez et à Ferland Mendy qui sont des latéraux gauche très robustes et qui pour moi auraient toute leur place dans cette équipe de France.
Ferland Mendy n'était pas pour cause de blessure, c'était blessé.
Pour cause de blessure, mais
ah oui d'accord. Je pensais que tu reprochais à des
joueurs. Il ne fait pas de ligament croisé, il n'est pas absent 6 mois. C'est généralement des petites blessures, des blessures musculaires entre autres. Et quand on voit l'équipe d'Angleterre qui sélectionne dans ses groupes de 26 3 à 4 latéraux, je pense que la France aurait pu faire de même. Quand on connaît l'importance des latéraux.
Et surtout que c'est ceux qui font le plus de terrain.
Exactement. Donc,
mais surtout qu'on avait des joueurs polyvalents.
C'est une faute professionnelle de la part des Deschamps.
Tu peux prendre Théo Hernandez en disant que Lucas Hernandez couvre le poste de l'anglais, alors que l'anglais va pas voir le terrain de l'Euro, il sera jamais mis sur le terrain.
Après, moi, j'aurais mis l'anglais à gauche, parce que quand tu joues au FC Barcelone, pour moi, t'as un minimum de technique, t'as un minimum de.
Il va pas
t'as
assez
un minimum
vite.
De mobilité. T'as un minimum de mobilité. Et je pense que l'anglais, pour moi, ce serait le plus apte à
occuper ce poste derrière gauche. Très, très
et je ne serais pas touché à la charnière.
Alors, Marion et Coach Tolé.
Ça aurait été le Barça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit oui tout de suite. Il se trouve que cette saison, quand même, ça, c'est plus tout à fait le Barça qu'on a connu. Et c'est vrai que je suis d'accord avec le mari. L'anglais, c'est quand même un peu light, quand même. Moi, je trouve que c'est un peu light.
C'est lent.
Pour bloquer l'ailier droit de la Suisse, je pense que ça peut être suffisant.
Pour moi, le problème, c'est qu'il y a quand même un vrai déséquilibre, c'est qu'on n'a pas d'arrière-gauche. Et la solution, ce serait pour moi de faire jouer un latéral droit à gauche.
Il y en a une autre.
Il garde les réflexes quand même.
Il y en a une autre que je trouve.
Dubois,
le problème, c'est qu'il est tellement pas en confiance. Oui, le mec, tu l'as mis en tribune.
C'est des joueurs quand même de côté à la base.
Moi, honnêtement, je pense que ce qui peut être intéressant.
Ils sont quand même de réflexes. Un défenseur central à mettre sur un côté, tout le monde ne peut
pas
le
faire. Non, mais surtout, pour moi, le seul défenseur central que tu pourrais mettre sur un côté, c'est Kimpembe, et tu touches pas la charnière. Elle fonctionne à peu près, tu la mets pas. Sinon, il y a une solution, c'est de laisser Rabiot à gauche en te disant que en situation défensive, tu te retrouves à 4, mais en situation offensive, les 3 défenseurs centraux, parce que notre latéral droit, c'est un défenseur central, glisse et passe dans un 3-5-2 en situation offensive.
Il y a un mépris quand même pour Dubois, je trouve, quand même. Parce qu'on fait vraiment comme si ce joueur était catastrophique. Il a quand même été, la saison d'avant, il a quand même été capitaine de l'OL. L'OL Pierre qui est comme. Voilà. En Ligue des Champions. Donc on fait vraiment comme si.
Et
demi-finaliste. Mais il a été capitaine en quart de finale de Ligue des Champions, je ne sais plus sur quel. Donc t'étais pas loin quand même. Et donc je trouve que quand même, il est complètement naze. Oui, il n'est pas extraordinaire.
Personne
n'a
dit qu'il était naze. Qu'il est tellement pas en confiance. Il a été mis en tribune depuis le début. C'est ça le problème.
Ceux
qui
sont en tribune.
Pour moi, s'il est en tribune, c'est le remplaçant du latéral droit. Je ne vois pas pourquoi on devrait le titulariser à gauche. Pour moi, ce ne serait pas lui rendre service. Donc j'aurais privilégié un défense central comme le font la plupart des équipes, comme l'a fait l'Angleterre.
Des grands clubs d'ailleurs aussi.
Ou des grands clubs, de sécuriser, de jouer éventuellement avec une défense à plat et de mettre l'anglais arrière-gauche.
Ouais, je suis d'accord, mais tu défonces ce joueur-là.
Hein. Ah, c'est pas un bon feu.
Après, en réalité, on sait pas du tout ce qui
se passe. Ce serait plus pour protéger.
Ça se trouve, il savait que Koundé allait être devant lui. Il y a quand même une communication. Des entretiens individuels. Ouais.
La différence avec 2018.
Le coach Koundé
à demi-mot, il l'a avoué. Il a dit, les journalistes lui ont proposé, lui ont dit, est-ce que tu serais capable ou éventuellement apte à évoluer à gauche? Lui m'a dit déjà à droite, c'est limite un sacrifice, même si j'ai évolué dans une défense à 3 à Séville. Alors là, à gauche, j'en parle même pas. Donc j'ai senti un peu un.
Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un problème par rapport à 2018. Ouais, ce sont les blessures. Donc ça va dans le sens de ce que je dis depuis le début en disant cramé, mais. Là, il y a beaucoup de blessures, je trouve. Voyons d'ici lundi aussi. Il y a des choses aussi qui vont changer, qui peuvent changer dans le week-end. On fait vraiment comme si c'était mort d'avance.
C'est pas acté que Hernandez soit pas là.
Ouais. Il existe quand même des médecins quand même dans
en
ce
staff
médical.
Digne sera pas là. Digne, il est out à la fin de l'Euro, a priori. Mais oui. le seul truc, c'est qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que sur ce poste derrière gauche, sur ce match-là, on va envoyer quelqu'un au feu. Sur un poste qui n'est pas le sien, que ça soit Dubois qui n'est pas arrière gauche, que ce soit l'anglais qui n'est pas arrière gauche. Non, mais je suis d'accord,
Il y a quand même une question de réflexe, de positionnement, on est face à ligne, etc.
Non, mais je suis assez d'accord avec toi, il n'y a pas de problème.
Il y a une cheville qui. Attention, hein.
On est d'accord. Mais ce que je veux juste dire, celui qui techniquement est le plus à l'aise, ça doit être Dubois. On est d'accord. Mais malgré tout, celui qui ira au feu. Donc moi, j'ai tendance à me dire que j'envoie au feu quelqu'un qui est en confiance, qui a déjà joué dans la compétition. Parce que commencer ta compétition arrière-gauche alors que tu joues arrière-droit en huitième de finale, c'est très compliqué. Moi, je mettrais plutôt Rabiot en disant au moins lui, il est rentré dans la compète, il a pris la température, il n'a pas la même pression.
Tu peux le voir aussi de côté à se dire, écoute, à la base, t'étais en tribune, là, t'as un huitième de finale.
T'as une opportunité incroyable.
Là, mon gars,
c'est tout ou rien.
Et je pense qu'à mon avis, ça reste compliqué.
Mais il n'est pas blessé aussi un petit peu, Dubois?
Non, il a été mis en tribune.
Apparemment, il a fait une très mauvaise préparation.
Dubois, il a quand même. Il a un défaut aussi, Dubois, il faut quand même savoir, c'est qu'il est très souvent blessé en plus. C'est pour ça que je demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui se cachait derrière.
Il s'est fait bouffer en préparation par les performances visiblement de Koundé, qui est vraiment
devant. Koundé est passé devant.
Et même, apparemment, c'est un des seuls qui physiquement était au point. Comme Marion l'a bien souligné,
encore une fois, j'ai pensé lui pour Théo Hernandez.
Alors, ouais, c'est bien, toi aussi.
Bah, moi je suis assez d'accord avec lui. Marie, sur sa solution, peut-être mettre Rabiot par rapport à la confiance de Dubois.
Pour le coup, je suis dans une situation
à 3 derrière. Tu vas pas mettre 3 défenseurs, je pense pas que Rabiot. Je ne pense pas après.
Toutes les situations sont dangereuses.
Viens, reviens à toi.
Il y a que des situations un peu dangereuses. Enfin, la personne qui sera mise.
Mais un défenseur.
Si Hernandez n'est pas remis, finalement, celui qui sera mis, il aura une espèce de pression.
Ils vont tout faire pour qu'Hernandez soit.
Moi je me ferais prendre. Ça serait une erreur de faire ça. En huitième de finale contre la Suisse, là où je rejoins Mourad, c'est que tu peux passer en bricolant avec un arrière gauche n'importe lequel. Exactement. Et ne prends pas le risque d'une rechute pour Hernandez. Si tu te dis que en le repoussant 3 heures de plus, il peut être vraiment prêt pour le quart. Moi, je prends aucun risque avec lui.
Je suis d'accord, sauf que là, on n'est pas.
Parce que ça marche.
Sauf que là, on n'est pas en match de poule, on est en match à élimination directe. Le sélectionneur, il se dit, on gère parce qu'il y a un quart. Non. Faut se qualifier.
Ouais, mais si Hernandez se pète, vraiment, ta compétition derrière, elle est pliée.
Tu t'arranges, mais je veux dire, je pense que là, ils font tout pour que Hernandez, il y a 5 jours de récup, soit sur pied pour moi.
Mais je crois que c'est quand même très improbable, malgré 5 jours. Enfin, les infos médicales qui étaient sorties. C'est qu'Hernandez, ça paraissait.
Après, il peut y avoir du bluff, hein.
Oui, aussi.
Ça arrive.
Tu vas pas faire bluff.
Et puis on n'a même pas envisagé les mains, hein.
Tu fais du bluff contre.
Non, je plaisante, contre la
Belgique. C'est pas si imbécile, hein.
Non, 3-5-2, le Mars, ça marche très bien.
Oui, Mourad.
Non, il parlait de bluff, justement. Je pense que tu fais du bluff contre une grosse équipe, contre la Belgique, contre l'Italie. Peut-être pas contre la Suisse dans un huitième de finale.
Peut-être.
Je pense que ce sera simplement transactionnel et il va mettre n'importe quel passant pour évoluer à gauche et je pense que c'est une étape
et lui dira tu montes pas tu fais que défendre
peut passer
et
à autre chose voilà exactement.
Marion, on a du temps. On a du temps, vraiment pas deux minutes. Non, j'aimerais aborder
le
cas. Oui, c'est Yanis qui me le dit à l'oreillette.
Oui.
On aimerait aborder parce qu'on a eu pas mal de réactions d'auditeurs notamment sur les réseaux sociaux. La confiance totale à Longoria du côté de Marseille. Eh oui, un mercato peut-être qui s'offre à l'Olympique de Marseille. On les voit pas arriver, l'Olympique de Marseille, mais vraiment.
Je suis contente de dire une chose, Bilal, sur l'Olympique de Marseille. La première, c'est que Macourt est heureux en France. Alors ça, c'est une info que j'ai de sources sûres. Il a pas du tout envie de partir, il a pas du tout envie de vendre le club. Longoria est mis, si vous voulez, au charbon devant pour effectivement s'occuper des transferts, mais je suis désolée de vous dire qu'en arrière-plan, c'est toujours Héro qui s'en occupe et que Héro a toute la confiance de McCourt. Il a été mis évidemment un petit peu à l'ombre pour rassurer les supporters de l'OM, mais je ne sais pas s'il va y avoir un gros budget pour l'OM. Moi, je continue à penser que ce club était quand même à sa place en finissant cinquième. Il y a une Ligue Europa, pourquoi pas? Après tout, ce club a été capable d'aller en finale de Ligue Europa il y a deux ou trois saisons avec Rudy Garcia. Tout le monde a fait comme si c'était nul, pas bien. Moi, je trouve que quand une équipe française arrive en finale de Ligue Europa, c'est pas si mal. Mais attention, Bilal, ne partons pas dans l'idée que Marseille peut un jour remporter le championnat, par exemple. Je trouve qu'on va trop loin. On pense trop. Les supporters de Marseille sont trop exigeants avec ce club. Ils sont trop durs à vouloir que ce soit le PSG. Ça ne sera pas le PSG. Ouais. McCourt n'a pas le même budget. Il faut être clair. Ne serait-ce que lui. Lui, il a une fortune personnelle de 1,3 milliard. On ne peut pas attendre qu'il mette 1 milliard sur 10 ans. C'est pas possible.
Tu as tout à fait raison.
Attention à Mario. Non, les Marseillais ne pensent pas comme ça.
Mais il y a beaucoup de Marseillais, malheureusement, qui pensent comme ça. Et c'est le vrai problème de Marseille, et Marion l'a bien dit, c'est que tu ne peux pas faire un projet à long terme parce que les supporters ne sont pas patients. Et donc, tu ne peux pas faire un projet à Lille. Alors, à la Lille, tu vois.
Pour être au contact de vrais supporters marseillais, ils sont conscients que c'est délicat, ils sont conscients que.
Mais ils sont conscients, et puis ils sont conscients un jour, et puis le lendemain, ils ont oublié.
T'as parlé avec eux ou pas?
Non, mais ils sont pas.
Mais nous aussi.
Il est au café du commerce tous les jours à Toulouse, lui Marie.
Ils sont conscients. Après, le vrai problème, surtout, c'est avec Jacques-Henri Hérault.
Et puis, avec la presse aussi marseillaise qui veut toujours que Marseille soit au top. C'est pas que les supporters, c'est aussi la presse.
On terminera avec Mourad et Vivien.
Ce qui est étonnant, c'est que on entendait il y a 6 mois que l'OM n'avait pas d'argent, déficit, etc. McCourt arrive à rallonger un petit peu. C'est bien, en tout cas, quand on voit ce qui se passe. C'est intéressant et tu as besoin d'avoir les grosses cylindrées compétitives déjà en Ligue 1. Donc maintenant, parce qu'à Marseille, on en a eu des effectifs de grande qualité mais qui se sont cassés la gueule. Mais en tout cas, ce qu'il fait jusqu'à présent, Longoria, c'est pas mal,
il n'y a que deux clubs en Ligue 1 qui ont cette pression, et des journalistes et des supporters. Alors, c'est le PSG et l'OM. Parce qu'aujourd'hui il y a les Qataris, mais rappelez-vous, Colonie Capitale, c'était une pression quand même très très dure, et des journalistes et des supporters. L'OM, c'est la même histoire, n'oublions pas quand même qu'ils se sont fait saccager les bureaux il n'y a quand même pas si longtemps, il y a moins de 6 mois.
Lors
c'est
de
très, très 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 dur de travailler à Marseille.
Pour rebondir sur les propos de Lumarie, Lumarie disait que les supporters de l'OM sont conscients. Moi, je pense plutôt qu'ils sont inconscients par rapport à ce que dit Marion. Ils ont envahi, je pense qu'ils sont conscients de rien, ils ont envahi la commanderie il n'y a pas si longtemps, mais ils ont le droit d'être exigeants. Je m'explique. L'Olympique de Marseille, je pense qu'il doit trouver un équilibre. Ils ont, Marion le disait, ils ont un propriétaire qui dispose d'une fortune à hauteur de 1,6 milliard, c'est ça?
Oui, quelque chose sous ça.
1,6 milliard de dollars. Ils ont une politique de trading en place. Je pense qu'ils doivent trouver le juste milieu, donc c'est-à-dire ne pas s'attendre à vouloir concurrencer le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts, mais essayer d'avoir des idées. Et avec Gerson, le dernier recrue en date, je pense que c'est une très bonne idée.
C'est vrai.
C'est un espoir du Flamengo, c'est un des joueurs majeurs du Flamengo.
Mais c'est un espoir qui est déjà confirmé, c'est ça qui est important.
Qui est déjà confirmé.
Tu ne peux pas faire comme à Lille et faire venir des joueurs de 20 ans.
Pari,
il faut des mecs qui ont de l'expérience.
Si je peux juste finir,
tu termines.
On n'est pas sur du trading où on fait du pari pur, mais on est sur quelqu'un de mature. Il a eu des essais infructueux en Europe, certes, mais plein d'autres en ont eu. Je pense à
Thiago Silva
notamment.
Merci Mourad,
du côté de l'Ukraine.
Et
qui ensuite s'est avéré être le meilleur défenseur du monde.
Je ne sais pas si c'était vrai la rumeur Gamero d'ailleurs pour l'OM qui était sortie.
Si.
Voilà, donc l'OM doit essayer de faire ça, je pense. Essayer peut-être tous les ans de viser le podium sans tomber dans le OM Champions Project, etc. qui a été vendu.
Pour le coup, je suis sûr que Gamero c'est une bonne idée.
Mais pas trop de trading, pas trop d'argent parce qu'ils n'en ont pas non plus.
C'est la fin de cette émission, peut-être une petite dédicace.
Ouais, du côté des loges en Josas. Vous savez ça se trouve ou pas?
Alors, où le coach Tolé, dis-nous.
C'est quoi, c'est
l'étape
du Tour de France?
Non, dans le 78. Regarde le paysage et je kiffe regarder le Tour de France avec les loges en Josas. En tout cas, on nous écoute, donc je les salue.
Tout Beurre FM. Oui, tu peux faire une dédicace,
à
vas-y.
Ma famille qui m'écoute du côté de Boufalik.
De Boufalik. Boufalik, ça c'est pas mal.
C'est où, Bilal?
Boufalik, si tu connaissais.
C'est la capitale de la Zabia.
Ah oui, voilà, c'est ça. Louis-Marie va passer ses vacances cet été, voilà, du côté de Boufalik. Un grand merci.
Il est bienvenu.
À Marion, aussi à Hamza, à Salah, à Vivien.
Il a vraiment tout Glow Academy pendant les vacances.
Oui, au coach Tolé, à Mourad. Et à vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, toujours là, de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur les antennes, sur l'antenne de Beurre FM, excusez-moi. On se retrouve dès lundi. On se retrouvera, c'est ça, on se retrouvera, excusez-moi.
Allez les bleus quand même.
Allez les bleus. Ouais, oui. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa à 22h. Bye bye. Allez les
bleus. Retrouvez Time Foot, spécial Euro 2021, du lundi au vendredi de 19h à 21h sur Beurre FM.